Dès que tu es OK pour l'enregistrement, hein. OK, super. On va commencer alors. Bonsoir à tous. Vous êtes aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Aucun problème. Ce soir, mettez-vous à l'aise. On a un bon programme en perspective. Je me réjouis vraiment de vous l'apporter, d'être le plus clair possible sur ce thème qui est la libéralité. On a vu la dernière fois l'honnêteté. On a eu quelques soucis techniques. On s'en excuse parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné jusqu'au bout. On a sauvé 1 heure de l'enregistrement et je vais essayer de compléter l'heure qui a sauté en faisant cet enregistrement à la maison ou d'une certaine façon pour que vous puissiez l'avoir. Donc, soyez rassurés. Je préférais pas trop m'avancer sur ça, mais c'est ce que j'ai pu décider de faire cette semaine et je vais le faire dès que j'ai du temps. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est important que vous ayez, et puis les personnes qui n'étaient pas là, puissent suivre chez vous à la maison. Ok, j'aimerais juste commencer par prier, et qu'on remette ces instants pardon, entre les mains de Dieu, et qu'on aille ensemble dans la leçon. Seigneur, ce soir, je te remets les rênes de cette réunion, de ce cours, de cette formation. Et je te demande de te glorifier, Père, parce que je t'aime et nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes venus pour être transformés et puis pour que tu puisses parler à nos cœurs ce soir. Alors viens, nous voulons disposer nos cœurs pour te recevoir. J'aimerais parler ce soir, Seigneur. J'aimerais parler de ta parole. J'aimerais continuer cette formation. On est au chapitre 7, Seigneur. Eh bien, continue de nous transformer pour que ta gloire soit d'autant plus grande et forte dans nos vies. Et viens nous convaincre, Seigneur, viens nous suggérer des choses ce soir encore qui ont besoin d'être transformées, viens appuyer des choses qui sont bonnes et fortes en nous pour qu'elles soient affermies et qu'elles durent longtemps et toujours même. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Super. On a parlé du verset biblique, effectivement. J'aimerais juste savoir qui c'est qui a eu anniversaire là début du mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Personne. Le mois de novembre. Quelqu'un a eu son anniversaire au mois de novembre? Personne. Je suis obligé alors de désigner. Je me suis dit, celui qui a fêté son anniversaire, il récitera le verset. Il faut vraiment que j'empêche Ézéchiel de citer le verset parce que lui, il me sauterait à la gorge. Qui c'est qui a envie de donner le verset de ce soir? On en a parlé un petit peu avant. La référence, c'est Actes 20, 35. Alors, on a des micros si jamais. Non, personne. Ouais, vas-y, Jean.
C'est car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le bout qui manque.
Il manque un bout, effectivement, mais...
Dit Jésus.
C'est très bien. Ne te laisse pas reprendre parce que Elisabeth vient juste de le lire et je vais le mentionner. C'était pas juste. Mais c'est effectivement, il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, c'est lui-même qui l'a dit, qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Yes. C'est pas, pourquoi c'est écrit comme ça? À mon avis, c'est pas Paul qui a donné cette parole-là ou Jean, ou c'est vraiment Jésus qui l'a dit. Donc, d'autant plus de poids de porter sur ce verset. Le premier jour, on était donc invité à revenir sur la leçon, les commentaires précédents, et la question c'était que révèle Genèse pardon, 14, versets 21-23, sur le caractère d'Abraham. Je vais juste relire le verset, comme ça vous pouvez entendre. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les gens et garde les biens matériels. Abraham lui répondit, je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Je jure que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de sandales. Ainsi, tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham. Abraham, pardon. Donc, on voit ici que Abraham s'est vraiment engagé à ne rien prendre, rien, même dans les très très petites choses, une courroie ou un lacet, etc. C'est des choses qui représentent l'infiniment petit, on va dire, ou les parties très singulières qui sont à notre disposition, qu'on pourrait facilement prendre, se servir, etc. Et il a choisi d'être honnête jusque dans les moindres détails. C'est ce qu'on avait comme réponse ici pour cette première question. Et j'aimerais citer un auteur qui s'appelle Howard Dayton, qui a écrit un livre qui est très intéressant, je vous le conseille, qui s'appelle « Votre argent compte ». Et il a écrit dans son livre « Une vie dans l'honnêteté absolue ne peut être que surnaturelle ». Et j'ai beaucoup aimé cette déclaration. Si on veut vraiment être absolument honnête, c'est une vie surnaturelle qu'on va mener, parce que notre société, on doit vraiment faire face à des conflits, à des choses où la malhonnêteté rentre dans les très très petites choses. Et pour être entièrement honnête, c'est surnaturel. Donc on doit se soumettre à Jésus-Christ comme notre Seigneur et qui nous permette de vivre justement sa vie en nous. Plus on va avoir Jésus qui vit en nous, moins on va faire des choses malhonnêtes. Et c'est ce qui est très important de comprendre. Et puis vous pouvez prier pour ça, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie, viens encore plus, règne en moi, etc. » C'est un auteur qui s'appelle Howard Dayton, D-A-Y-T-O-N. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Votre argent compte ». Il y a plein de clés dedans, comme épargner, investir, etc. Tout en rapport avec l'argent. Votre argent compte. C'est le père spirituel de cette formation, en fait. C'est lui qui a à l'origine créé ça pour son église, etc. et qui l'a étendu à l'international, en fait. Voilà. Vous pouvez l'acheter sur Internet ou dans la librairie, dans les librairies chrétiennes, etc. Mais je vous donnerai plus d'infos en dehors de la formation si vous voulez. Donc le message est clair et on a besoin d'aspirer à ce que Jésus vive vraiment davantage dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée, etc., qu'il ait toute la place. Et la question suivante qui était posée, c'était: quelle application de l'exemple d'Abraham pourriez-vous faire dans votre vie? Alors, est-ce que, moi je vous la pose ce soir, est-ce que vous avez envie, quelqu'un a envie de partager juste quelque chose qui a à cœur, vous avez été invité à faire des changements, etc., ou des décisions que vous avez prises pour être honnête et plaire à Dieu? On a vu le chapitre dernier, c'était l'honnêteté. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu des choses qui vous ont parlé, des choses qui sont venues à la surface, qui ont dit « Ok, c'est le temps maintenant pour toi de régler ça, mon enfant, etc. » Est-ce que vous avez senti Dieu vous dire ça? Et on peut faire tourner les micros, et puis le deuxième, on va le mettre vers là-bas. Ouais. Ok, est-ce que Jean, tu veux nous partager?
Moi, c'était plus par rapport à être reconnaissant que de se plaindre des choses qu'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir. Déjà, reconnaître tout ce qu'on a déjà. Enfin, d'accord. Être plus avoir une attitude de reconnaissance. Ouais.
Ok, c'est déjà un bon commencement. Est-ce que ça a développé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as senti que ça change des choses?
Ben, il y a encore du travail, parce que ça doit être plus constant, je pense. Mais que ce qui change, c'est... Par rapport au fait, quand on est reconnaissant de ce qu'on a, quand on se réjouit de tout ce qu'on a, ben on peut pas être en même temps réjoui de ce qu'on a et être malheureux de ce qu'on n'a pas.
Okay.
Pendant qu'on se réjouit, on peut pas être malheureux. En fait, c'est super. C'est contraire.
Voilà. Ok. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose qui a... Ouais. Ok. Vas-y, Ghislaine.
Moi, j'ai pris des résolutions suite aux courses de l'honnêteté. Des fois, le matin, quand je vais à mon travail, je travaille pas loin, je suis à 10 minutes à pied, donc des fois je vais aller à pied, c'est ma décision, et paf, il y a un tram qui arrive, et après je saute dedans, parce que c'est juste 3 arrêts plus loin, et je paye pas de ticket, et donc je fais ça régulièrement, et puis maintenant je vais plus le faire, quoi.
Super. Par honnêteté. Super. C'est vraiment une petite chose, ça te rendait service, mais au final, si maintenant il y avait un contrôleur, oh, tu aurais pu avoir une amende, effectivement. Et peut-être en voyant ça, il y a une solution qui va se présenter à toi à un moment ou à un autre, où ça va être bénéfique d'une autre façon, tu prends l'air, etc. Donc c'est très bien, c'est une bonne décision. Vas-y, Seb.
Ouais. Moi, c'était surtout par rapport aux petits arrangements qu'on peut faire dans le business, enfin dans le cadre de mon boulot.
Okay.
On se dit que c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas très grave. Genre, j'ai un client, je citerai pas son nom, bien sûr. qui a une société qui dit bah tiens, plutôt que je le paye moi mon nom personnel, bah si tu peux me faire la facture au nom de la société, ça change rien pour toi, ça change rien pour moi, mais en fait c'est quelque chose que j'ai accepté et que je refais plus.
Ok.
Ouais.
Tu sentais que c'était
Bah c'est clairement pas réglo, quoi.
Ok. Super. crois que Dieu bénit des choses comme ça quand on se met en règle devant lui. C'est parfois devant les hommes, les gens ils comprennent pas. Tu dis, mais non, mais tu peux pas faire ça. Ou bien pourquoi tu fais ça, je comprends vraiment pas. Et à un moment ou à un autre, on peut être un témoignage. Et je crois que les gens qui voient que quand on est fidèle dans les toutes petites choses comme ça, qu'on dit non, même si c'est tellement infime, une feuille ou quoi que ce soit, cette personne, je peux vraiment compter sur elle le jour où il y a quelque chose de gros à lui confier. Et quand c'est des collègues pas chrétiens, ça parle très vite sur le lieu du travail, par exemple. Mais wow, cette personne, c'est une personne de confiance, crois-moi-en, j'ai tel et tel exemple, et on peut lui confier des bonnes choses. Donc je crois que Dieu, après, honore ce genre de démarche, et c'est très bien. Une dernière
remarque. Oui, juste en fait, le lendemain où tu avais parlé la dernière fois, oui. Moi j'ai eu un test à mon travail, je suis allé au Crous, aux Minières, prendre un sandwich. Et en fait, la dame, elle me l'a facturé à 3 euros au lieu de 3,50. Et quand j'en suis rendu compte sur la facture, je me suis dit, ben là, c'est le test, là. Il faut, je ne peux pas laisser passer ça après ce que j'ai entendu hier.
Excellent.
Et du coup, après que j'avais fini mon repas et tout, j'avais remarqué, je suis allé voir la dame et je lui ai dit, ben, excusez-moi, mais en fait, c'était peut-être votre collègue, elle a fait une erreur. Elle m'a facturé à 3 euros au lieu de 3,50. Et la dame, je crois, elle m'a pris pour un illuminé. Elle a regardé, elle a dit... Oui, bon, ok. Bon, ben on laisse, quoi.
D'accord, ok.
Mais elle était vraiment surprise, quoi, du truc, quoi.
Super.
Et puis moi, je lui dis, bon, oui, au cas où il y a une erreur dans votre trésorerie, au moins vous savez d'où ça vient et puis que vous savez.
Prenez note.
Okay. Voilà.
Super. Super. Ok. Et donc, ça, c'était pour le jour 1. Bien sûr, il y a des exemples, ça ne s'arrête pas. On va être toute la vie continuellement testé, parfois dans les grandes, dans les petites choses, etc. Mais je crois que parfois Dieu nous met des petites expériences comme ça pour juste faire un bilan dans nos vies. Est-ce qu'on est toujours honnête? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'actualité en nous? Donc voilà, on est au deuxième jour. Et justement, pour entrer dans le sujet du jour, on va voir que la libéralité, c'est avant tout une histoire d'attitude et une histoire de cœur. D'accord? Souvent, on pense libéralité, donner de l'argent tout de suite, etc., ou portefeuille, etc. La libéralité, c'est d'abord une attitude de cœur. Et on va prendre le verset, Matthieu 23, verset 23. J'aimerais le lire. Dès que c'est OK pour vous. Donc, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Très important, la fin du verset, sans négliger le reste. On prendra encore deux versets. 1 Corinthiens 13, verset 3. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Un verset qu'on connaît tous, donc. Où l'amour est central. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On l'a entendu et on l'a encore entendu. Mais c'est justement parmi ces trois versets, parmi tous les versets de la Bible, ces trois versets qui nous montrent que les pharisiens, eux, ils étaient hypocrites. On les connaissait comme ça. Enfin, Jésus les connaissait comme ça. Il le dénonce. Et surtout, c'était un verset pour nous montrer. Ils donnaient la dîme. Waouh ! Ils donnaient la dîme sur telle et telle récolte, etc. Ils étaient fidèles dans leur dîme. Aucun problème. Mais ils négligeaient le reste. Et c'était surtout un acte religieux pour eux. C'est ce que Jésus dénonce. Et il dénonce qu'il n'y a pas d'amour dans leur acte. Il n'y a pas ce que le verset suivant, donc 1 Corinthiens 13, nous dit, l'amour qui doit motiver le don, etc. On en parlera un petit peu plus tard, l'histoire de la dîme encore. Et la joie, je crois qu'il faisait ça machinalement. Vous vous souvenez quand on a parlé de la dîme dans un des chapitres, il y avait plusieurs attitudes qui étaient décrites, qu'on avait vues. Et je crois que les pharisiens le faisaient peut-être pas de la bonne manière. Ils donnaient, et le montant était donné, et le bon montant peut-être, etc., était donné. Mais l'attitude, et c'est ce qui est fort sur le cœur de Dieu, ce qui est important avant tout, n'était pas là. Effectivement, dans tout ce qui va motiver la façon dont nous donnons, il faut qu'il y ait une racine dans l'amour. C'est, vous imaginez un gros bocal rempli d'amour et toutes vos pensées, toutes vos intentions de donner, etc., devraient chercher, puiser les ressources d'abord dans l'amour et ensuite ça se voit à l'extérieur. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, on va le voir, et qui n'est pas inspiré par l'amour, c'est bien, vous avez béni une personne, mais devant le cœur de Dieu, ça lui aura pas fait ni chaud ni froid, ça, voilà. Vous avez peut-être même perdu de l'argent. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est vraiment le cœur d'abord. Et de le donner avec joie, sans contrainte. Parfois, on se dit, ah, c'est une contrainte, etc. Alors, ne donnez pas. Et on va le voir plus en détail. Alors, comment on peut justement développer notre capacité à donner avec une attitude juste? À votre avis, comment est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez des idées? Comment on peut... Est-ce que vous avez envie de partager surtout sur votre attitude? Vous avez peut-être rencontré des situations où votre attitude a été mise au défi et vous n'étiez pas en paix, ou bien c'était très facile pour vous de donner, vous avez expérimenté des choses fortes avec Dieu. Est-ce que vous avez envie de partager sur ça courtement? Je vous laisse la parole. Vas-y, Ézéchiel, ouais.
Ouais, je pense qu'il faut juste dire que Dieu est propriétaire, comme on l'a dit avant, mine de rien, ça aide beaucoup. Et ne pas oublier qu'il pourvoira toujours à nos besoins. Je pense que dans toutes les pensées qu'on peut avoir, ça soulage beaucoup. Enfin, ça enlève plusieurs soucis. Le fait de manquer, le fait d'avoir du mal à donner, je pense que ça agit facilement là-dessus.
Ok. D'accord, Ghislaine, t'as marqué la même chose. D'accord, effectivement, c'est bon de se rappeler ça, c'est bon de se rappeler que Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Et on va vraiment voir dans la suite de la leçon que Dieu nous bénit financièrement pour donner. On va voir que c'est vraiment ce qui motive l'apport dans nos vies, l'apport financier, l'apport de ressources. Ce qui motive le cœur de Dieu de faire ça dans nos vies, c'est de voir des enfants qui ont envie de donner. Et c'est ce qui va être une clé primordiale, une clé fondamentale, voilà, à ce que nous puissions expérimenter la surabondance. Ok, moi j'aimerais vous parler un petit peu aussi ce soir, je vais vous donner quelques témoignages durant toute la soirée, c'est que moi perso, j'ai vécu des moments où quand j'étais par exemple sur la route à un feu, et qu'il y avait une personne qui demandait de l'argent, je le voyais un petit peu plus loin, je me disais, ah, soit j'espère qu'il va pas arriver à ma voiture, et... C'est comme si j'étais censé devoir de l'argent à cette personne. Dans mon cœur, je me disais, ah, il faut que je lui donne. Je me sentais obligé de donner, etc. J'ai parfois été culpabilisé de pas donner en disant non, etc. Ou parfois seulement que je donnais, mais en fait, j'avais dans mon cœur une fausse empathie. J'ai remarqué ça, je demandais pardon à Dieu pour ça. Je dis, Seigneur, c'est vrai que j'ai pas agi avec un bon cœur. J'ai donné, mais j'ai pas agi avec un bon cœur. Et parfois, on a besoin justement de se mettre face à un miroir et de dire, ok, dans ces situations-là, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Montre-moi, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Et peut-être que Dieu ne veut surtout pas qu'on donne au feu rouge. C'est peut-être ce qu'il va nous dire dans la situation qui va se présenter. Et c'est aucun problème si c'est la volonté de Dieu. Mais on a besoin de travailler notre cœur. Et ce soir, si vous avez vraiment envie de noter, c'est pas un point qui est développé dans la formation. Si vous avez envie de noter, c'est un trait de caractère qui est vraiment propre et qui est fort à Jésus que j'ai envie d'aborder ce soir. La Bible en parle plusieurs fois. Et si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on a envie de ressembler davantage à Christ, on pourrait prier pour la compassion. Et ce soir, si vous voulez noter dans vos cahiers, la compassion, c'est ce qui va être un élément très important dans notre relation avec Dieu, dans notre rapport avec les autres, et ce qui va développer en nous la libéralité que Dieu veut qu'on pratique. Avant de regarder quelques versets, j'aimerais citer aussi un pasteur qui disait « C'est la transformation de ce qu'on est qui va amener la transformation de ce qu'on fait et pas l'inverse. C'est d'abord ce qu'on est. Quand c'est transformé, ça va changer ce qu'on va faire, d'accord ? Et pas l'inverse. C'est pas on change d'abord ce qu'on fait, etc. Tiens, maintenant je vais donner au feu rouge, je vais donner 100 euros chaque fois que je vois quelqu'un, je commence à changer. Et puis finalement, ça change pas dans mon cœur. Non, non, non. On commence d'abord à être transformé de l'intérieur et ça va se voir à l'extérieur. Souvenez-vous, on parle de libéralité et dans un premier temps, sous l'angle de l'attitude et du cœur, d'accord ? On n'est pas dans le fait pour l'instant de voir quels sont les cas pratiques qu'on peut mettre en place. On va aussi le voir, mais on va voir l'action un petit peu plus loin. Vous pouvez noter Matthieu 20, verset 34. C'est des versets qui sortent un petit peu du cahier. Matthieu 20, verset 34. « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Ça, c'est le premier verset, il y en a trois. Le deuxième, c'est Luc 7, verset 13. « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». On s'arrête là. Et le troisième verset, Marc 8, verset 2. « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » C'est les trois versets qui nous parlent de compassion, on l'a bien entendu. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, pour avoir un peu cherché dans la Bible, qu'il y a plusieurs mots qui traduisent le mot « compassion ». Si vous avez envie, je peux vous les citer, mais c'est assez, c'est un combat linguistique pour essayer de les prononcer juste. Mais il y a plusieurs façons. Il y en a au moins quatre dans la traduction grecque. Il y en a au moins quatre. Mais j'aimerais m'arrêter sur le quatrième. Je vais vous le dire quand même. Il s'appelle splashnitsomai. Voilà. On dirait de l'alsacien mélangé avec du chinois ou du japonais, un truc comme ça. Mais ce mot-là, en fait, la racine grecque de ce mot veut dire être remué dans ses intestins. C'est quelque chose qui se passe très physique au niveau du ventre. Et c'est trop intéressant d'étudier, de chercher ça. Mais Jésus était saisi quand il avait de la compassion, dans les versets qu'on a vus, au plus profond de lui-même. Ça vient vraiment, ça c'est pas juste un frisson qu'on a dans le dos, etc. Les intestins étaient vraiment remués, d'après ce qu'on en voit dans l'étude du texte. Et parfois on utilise un mot qui ressemble au mot compassion. C'est là où c'est intéressant de faire une petite différence, mais qui au fond n'est pas pareil, parce que le mot pitié, est-ce que vous avez déjà entendu ça? J'ai de la pitié, j'ai de la compassion. C'est pas tout à fait pareil. Avoir de la pitié et de la compassion, on voit les différences maintenant. La pitié, c'est le fait d'être spectateur de la souffrance. On voit la souffrance et on éprouve un sentiment. Quelque chose qui nous passe, on la voit, ok. Mais au final, et c'est ce qui est intéressant de garder, au final, on reste passif. Il n'y a rien qui se passe. Oh, ça fait mal au cœur, mais bon. Voilà, c'est dommage, ou c'est triste, ou ça fait, oh là là. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui nous raconte une blague juste à côté, puis, oh, on est nouveau dans le move, etc. C'est bon. Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu? Ok, on l'a tous vécu. Le mot compassion, lui, ou la compassion plutôt, elle produit aussi un sentiment. On ressent aussi quelque chose. Et on voit que Jésus, lui, la vraie compassion, ça remue dans les tripes. Mais elle veut faire quelque chose. Jésus, on l'a vu, il n'est pas resté stérile. Il a eu de la compassion et il a fait quelque chose. Et c'est là que les versets nous montrent que Jésus, chaque fois qu'il a été ému de compassion, et qu'il y a quelque chose qui s'est passé ensuite. Il a fait un miracle, quelque chose de merveilleux. C'est intéressant de voir que quand on a ça, et que ça nous anime à aller vers la personne, de faire quelque chose, il peut se passer vraiment un miracle. Le premier miracle, dans les trois versets qu'on a vus, c'est que deux aveugles qu'il appelait à l'aide sur le bord du chemin, vous vous souvenez l'histoire, « Ah, Jésus, Jésus !» Puis il savait pas où il était, mais il savait que Jésus était pas loin. « Viens !» Et puis il criait jusqu'à ce que Jésus vienne. Il soit ému de compassion devant ces deux aveugles, et ils les guérissent. Ils retrouvent la vue, et là, c'est bonheur pour eux. Imaginez un aveugle qui voit... Un jour, j'aimerais tellement, tellement voir ça, ou prier pour des aveugles, mais avec la compassion, la même que Jésus. Le deuxième, c'est une veuve qui a perdu son fils. C'est un truc de fou, elle le voit ressuscité. C'est là où le verset Luc 7, 13 en parle. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas, je vais faire quelque chose pour toi. Boum, le fils, il ressuscite. Ça, c'est encore une situation énorme. Et le troisième, c'était toute une foule. Jésus voit cette foule devant lui. Et il est ému de compassion. Imaginez, à l'église, vous voyez juste tout le monde à l'église qui n'a pas mangé depuis quelques jours. Moi, j'ai pas trop de compassion. Je me dis, ben, vous allez au McDo, vous allez chercher à manger, quoi. Enfin, faites un truc. Non, Jésus, lui, ça a tellement pris aux tripes. Alors, bien sûr, c'était dans un contexte où il l'écoutait enseigner. Mais il fait un miracle avec peu de choses, peu d'aliments, on les connaît, les pains, les poissons. Et il y a vraiment un miracle qui se passe. Etc., etc. Dans la Bible, il y a des centaines d'histoires, je crois, où Jésus fait des miracles. Mais il faut qu'on se pose la question dans notre propre vie, est-ce qu'on est animé par ces mêmes sentiments qu'avait Jésus? C'est très important de se poser la question, ou est-ce qu'on est plutôt sec? Est-ce qu'on est plutôt froid quand on voit la souffrance dans le monde? Quand on passe dans les rues, etc., quelqu'un demande à manger, ou quelqu'un simplement là, et est-ce que ça nous fait quelque chose? Est-ce qu'on a de la pitié? Est-ce qu'on a vraiment de la compassion qui nous pousse à agir? Je crois que c'est vraiment intéressant de... Enfin, je dis toujours intéressant ce soir, j'ai l'impression. Mais, ça l'est. Mais je crois que c'est important qu'on réveille nos consciences et dire, ok, oui, par rapport à ça, j'ai besoin de faire un bilan. Peut-être qu'on a besoin d'être libéré de quelque chose parce qu'on a été déçu, on a été blessé, ou on a besoin d'être guéri, etc. On a besoin d'être restauré parce que quelqu'un nous a vraiment fait du mal un jour qu'on voulait bénir, etc. Et puis plus jamais on s'est dit qu'on ferait du bien à quelqu'un. Il y a des choses comme ça dans nos vies qui sont là. On a besoin de pas les laisser s'enraciner ou porter plus de fruits que ça. Il faut déraciner tout ce qui ne va pas dans le sens de la compassion. Jésus est compassion. Il est vraiment, c'est un des traits très forts de son caractère. Et si on veut lui ressembler, je crois qu'il faut qu'on ait, on ait à grandir sur ça. Il faut qu'on puisse voir en nous, que les gens autour de nous nous disent, wow, lui, il a vraiment de la compassion. Et en fait, j'aimerais vous raconter aussi un témoignage. C'est que lorsque j'étais plus jeune, je me souviens, quand j'allais en ville avec mes parents, puis je connaissais pas trop Jésus, en fait, à l'époque. Je pouvais voir un pauvre dans la rue et pleurer, mais pleurer, j'étais pris aux tripes, ça m'animait tellement fort que si mes parents ne faisaient rien pour cette personne, je pleurais toute la soirée. Et je m'en souviens un jour, c'était à Mulhouse, sur la place de la Réunion ou la place de la Concorde, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a la mairie, il y avait un mec, c'était un pauvre gars, et puis mon père a dû lui payer une bière ou un truc comme ça, jusqu'à ce qu'il le fasse. Ça m'a rassuré, ça m'a consolé vraiment. Et je me souviens que j'étais animé par une sorte de compassion comme ça. Pas seulement ce cas-là, mais il y avait, quand je voyais un pauvre dans la rue, ça pouvait me, j'avais mal au fond de moi et tout. Mais, au fil des années, j'ai remarqué, j'ai fait le bilan il n'y a pas très longtemps, que mon cœur s'est endurci. J'ai entendu des témoignages, j'ai entendu des gens, des arnaques, etc. Mais même, je me suis laissé endurcir, au fond de moi-même, est-ce qu'il n'était pas une bonne chose? Mais je l'ai laissé sans même trop faire attention. Et c'est pour ça que je dis, c'est important de faire un bilan, de se dire où c'est qu'on en est par rapport à ça. Et moi, simplement, si vous êtes dans le même cas que moi, ou si vous l'avez été, ou si vous allez l'être un jour peut-être, c'est que c'est vraiment ma prière devant Dieu. Parfois, je dis, Seigneur, voilà, je peux pas nier que je me suis endurci. Mais adoucis mon cœur, permets-moi de pleurer avec les pauvres, permets-moi d'avoir un cœur qui bat fort, et même donne-moi même la compassion quand il faut que je l'aie, et me la donne pas quand c'est vraiment une arnaque et un truc. Comme ça, je sentirais que c'est peut-être le bon moment de donner, le bon moment de faire quelque chose. Voilà, on peut prier de cette manière-là, je pense, et je crois que Dieu va nous conduire, va nous changer, il va nous libérer, nous guérir, etc. Justement, pour terminer le jour 2, j'aimerais vous donner une clé très pratique donc pour avoir une bonne attitude lorsqu'on donne. Et justement, depuis longtemps, j'ai entendu dire que des gens, lorsqu'ils donnent de l'argent aux pauvres, ils disaient, moi je donne pas de l'argent aux pauvres, je préfère leur acheter à manger. ou leur payer un vêtement, ou voilà, tout ça c'est des super choses, et je crois que c'est pas un mauvais raisonnement. Et là, j'ai noté dans mes notes que justement, ce sont même des très bonnes choses, mais le conseil que je vous donne, c'est effectivement de jamais aider une personne qui est dans les dettes, en l'aidant, en lui donnant de l'argent. Simplement comme ça, tiens, t'es dans les dettes, je te donne une somme d'argent, comme ça tu seras plus dans les dettes. Ça, c'est pas une bonne chose. Par contre, de lui donner de l'argent avec un accompagnement peut-être, et un soutien, un suivi, etc., là, c'est un autre cas, d'accord ? C'était juste une petite parenthèse. Mais ce que j'entendais, moi, autour de moi, c'était Jésus ne donnait pas d'argent, donc nous non plus ne donnons pas d'argent aux gens dans la rue. Et par manque de connaissances, je ne pouvais pas contrer et dire, si, donner de l'argent, et je peux te prouver, etc. Et donc au début, pendant quelques années, j'ai cru que c'était vrai. Et je me suis dit que, il vaut mieux que je paye un sandwich à quelqu'un, plutôt que qu'il aille s'acheter des cigarettes. Et on a tous cette pensée-là, on l'a même vu et ça existe. J'en ai entendu des témoignages, si on suit parfois les personnes, on peut voir qu'ils font des mauvaises choses avec l'argent qu'on leur donne. Mais même si c'est un bon raisonnement, Jésus donnait de l'argent, il donnait littéralement de l'argent aux gens. Et on va le voir dans Jean chapitre 13 plus tard, je vais vous inviter à le reprendre tout à l'heure. Mais comme on l'a vu précédemment, tout doit être inspiré par l'amour, d'accord ? 1 Corinthiens 13 nous le dit, mais parfois c'est pas évident lorsqu'on fait face à telle ou telle personne. Vous êtes d'accord ? Dans la rue, parfois le visage de quelqu'un, peu importe s'il est pauvre ou très très pauvre ou vraiment dans la galère, ça nous donne pas toujours envie. Et la clé, là je vous avais dit que je vous donnerais une clé, la clé que j'aimerais vous donner ce soir, c'est de réaliser à chaque don que vous faites que vous avez Jésus en face de vous. C'est vraiment pour Jésus que vous le faites, à Jésus, pour le cœur de Jésus, pour faire plaisir à Jésus, tout pour Jésus, comme si le visage de Jésus commençait à prendre le visage de la personne, et c'est simplement pour lui que vous le faites. Et en fait, voilà, c'est, on va le voir plus en détail tout à l'heure, mais vous pouvez donner à une église, vous pouvez donner à un ministère, vous pouvez soutenir une personne qui est dans le besoin, etc. Mais si ça s'arrête juste là, en fait, c'est un acte de charité que vous faites. C'est bien, ok, mais c'est un acte de charité. Par contre, si vous faites si vous faites la même chose en pensant que c'est vraiment Jésus que vous êtes en train d'honorer, c'est plus un acte de charité, c'est un acte d'adoration. Et qu'est-ce que veut notre Seigneur? C'est l'adoration de nos cœurs, c'est l'adoration de nos vies, c'est dire waouh, lui il a compris, et là l'attitude elle est vraiment sur le bon sol, les bonnes fondations, puisées dans l'amour, parce que si vous le faites pas avec amour alors que c'est pour Jésus, il y a peut-être un problème, d'accord? Mais c'est une discipline peut-être à se mettre dans la tête au début, dire ok, non là c'est vraiment pour Jésus que je le fais. Et vraiment, ce que j'aime bien dire aux gens parfois, c'est que quand on fait ça, notre responsabilité, elle s'arrête où ? Quand on donne et qu'on a dit, ah tiens, ça c'est Jésus, tenez monsieur, voilà, Jésus, tenez monsieur, voilà. Notre responsabilité, elle s'arrête où ? Elle s'arrête quand on a donné. Dès que la personne prend votre billet de 5 euros, hop, dans la main, l'acte d'adoration a été fait. Parce que vous avez eu le bon cœur, vous avez eu la bonne attitude, vous avez tout fait. Bam, c'est monté au ciel, Dieu s'est réjoui, pour vous c'est terminé. C'est fait, it's done, je sais pas comment on peut dire. Mais c'est pas avec la responsabilité, elle s'arrête pas une fois que le gars à qui vous avez donné l'argent, il va lorsqu'il aura consommé cet argent-là, c'était ta responsabilité qu'il ait acheté des cigarettes, etc. Alors, je mesure, attention. Je nuance. Si on sait pertinemment que la personne va le faire, ne le faisons pas, d'accord ? Il y a une certaine sagesse, et c'est là où Dieu doit nous diriger, et c'est beaucoup mieux, par son esprit. Mais, parfois, il y a certaines personnes qui disent, moi, de toute manière, je ne donnerai pas. Parce que, de toute manière, il va s'acheter des cigarettes, je le sais, tout le monde fait ça dans la rue, ils ont ou de l'alcool, etc. Là, c'est peut-être pas la bonne chose, parce que ce serait peut-être pas ce qu'il va faire. Ou alors, quand on est au moment des offrandes, etc., l'église, d'ailleurs, moi, j'ai donné le mois dernier, mais j'ai vu que la déco, elle a toujours pas changé. Ou alors que, voilà, etc. Mais je vous dis des choses qu'on peut entendre. Non, notre responsabilité, Et on a besoin d'avoir la compréhension que quand on donne, c'est au moment où on donne, quand on donne notre dîme, nos offrandes, quand on fait tout ce qui est en rapport avec les ressources financières qu'on donne, elle s'arrête au moment de donner. Donc plus d'inquiétude à l'Église quand les ressources sont utilisées d'une manière qui ne nous convient pas. La responsabilité, elle est passée à d'autres personnes. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de responsabilité derrière. Ils ont encore plus d'ailleurs de poids de responsabilité à prendre en compte ceux qui vont du coup gérer ça. Et donc plus d'inquiétude, je le disais, pour le monsieur qui va justement se payer un cigare plutôt qu'un burger. T'aurais mieux fait de prendre un bon burger. Mais bon, voilà. Donc c'est ce que je disais, on nuance, attention. Et effectivement, il y aura des arnaqueurs, il y aura des menteurs, il y aura des gens de toutes sortes, avec toutes sortes d'intentions. Mais je vous encourage, n'arrêtez pas de façonner votre trésor dans le ciel. On l'a vu, quand vous donnez, vous créditez votre trésor dans le ciel. Certains versets qui vont être donnés tout à l'heure nous montrent que pendant qu'on a le temps qui nous reste jusqu'à ce que Jésus revienne, profitez-en pour amasser des richesses dans le ciel. Pourquoi ? Parce que là-bas, et on va le voir, là-bas, il n'y a pas de rouille, ça ne, etc. Les ressources ne s'épuisent pas, etc. Donc faisons-le et que notre libéralité soit tournée vers Jésus lui-même. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous laisser ce soir. C'est que la clé, c'est qu'on regarde à Jésus quand on donne et on s'imagine que c'est Jésus. Et on a besoin de demander à Dieu justement du discernement, mais soyez généreux, ok ? Développez votre générosité. Et encore un témoignage ce soir, il y aura plein de témoignages, mais je crois que ça parle. Cet été, j'étais en Sicile avec Mathilde et Lynn. Et à un moment, on faisait les courses pour tous les midis, on faisait des courses, c'était un peu parfois stressant pour moi et tout. Et un coup, je suis parti tout seul au magasin, c'était dans un magasin en Sicile. Et en arrivant sur le parking, je vois un gars qui est là à l'entrée du magasin, c'est un black et tout, et puis il demandait aux gens un truc, quoi. Et moi, je me suis dit, oh, j'ai pas à cœur de lui donner tout ça. Et puis je rentre dans le magasin, je fais mes courses, tout ça. En ressortant, je le revois, il vient vers moi et tout ça. Je fais non, désolé et tout. Puis je me mets dans la voiture et je me souviens avoir pris un super bon dessert pour Mathilde et un super bon dessert pour moi. C'était un bon yaourt, quoi, avec des fruits, tout ça. On avait faim ce midi-là et tout. Et dans la voiture, il y a une pensée comme ça qui vient dans mon cœur et tout, qui dit, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place, là, juste dans ce moment-là, pas de culpabilité, rien, juste, essaie d'y penser, là. Et elle fait, waouh, Jésus, quand il avait une proposition, il laissait jamais la personne en rade. Il donnait même un mot d'encouragement, une bénédiction, une guérison, il donnait toujours quelque chose. Jésus, c'est sa nature, généreux au max. J'ai fait marche arrière et tout, et au moment de passer devant le gars, j'ai dit, mais Seigneur, je vais lui donner mon super bon dessert, je crois que ce gars, il mérite au moins un bon dessert, quoi. Et au moment où je lui donne comme ça, le gars était trop content. Je fais soyez béni, monsieur, ou un truc comme ça, ou bless you, je sais plus comment je lui ai dit, tout ça. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? L'amour de Dieu qui est venu dans mon cœur, mais tellement fort. Je me suis arrêté un peu plus loin et j'ai pleuré comme ça. Tellement ça m'a fait du bien, en fait. Et ça me fait vraiment encore du bien. J'ai carrément tous les poils qui se montent là. Mais l'amour, enfin, et qu'est-ce qui se passe dans un moment comme ça? Le monsieur, il est béni, mais on est tellement plus béni. Et ça, c'était pas la première fois que je l'ai expérimenté. C'était vraiment, il y a plusieurs fois comme ça où Dieu m'a touché d'amour, juste pour me dire, oh, t'as bien joué, t'as raisonné là, tu t'es arrêté 2 secondes. Je suis trop fier de toi. Et je l'ai senti, je vous dis, ça m'a rempli le cœur. Et je crois que vous pouvez vivre la même chose. J'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a besoin de l'expérimenter, sinon c'est du blabla. Sinon les gens ils disent, oui, c'est un proverbe qu'on donne à toutes les sauces et tout ça, donne. Parce que, non, on a besoin. Et la libéralité, c'est justement tourner vers nous, en fait. c'est tourner vers nous, la libéralité. On donne, mais en fait, on se fait du bien, on fait plaisir à Dieu et tout ça. Qui c'est qui est plus béni? C'est celui qui donne? Non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et finalement, on reçoit. Les bienfaits sont envers nous, finalement. Mais bon, on a besoin de le travailler, et parfois, c'est pas évident. Alors, une question, vas-y Stella, prends juste le micro.
ce n'est pas une question, c'était plutôt un témoignage. Une fois, enfin, vers novembre, fin novembre, on était parti au champ avec mes enfants et on a trouvé un gars qui était dehors et qui demandait de l'argent, tu vois. Certes, ce jour-là, je n'avais pas beaucoup, mais j'avais quand même quelque chose. Alors du coup, je dis, enfin, à la place, Elvis, tout de suite, il voulait déjà le mettre, l'argent. Il ne voulait pas que je le donne, il voulait lui donner. Alors moi, je dis, on ne donne pas. On rentre au champ, comme on va faire des courses, on achète quelque chose pour donner au monsieur.
Okay.
Et du coup, comme il faisait nuit, je pensais du jus de fruits, multivitamines, ça allait. Et sandwich, des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'ai pris des sandwichs un peu la plus simple, parce que pour ne pas dire que je ne mange pas ça ou un truc comme ça, j'ai pris des sandwichs la plus simple. J'ai pris aussi un paquet de lait pour donner au monsieur. Le problème, c'est qu'on a sorti, tout le monde était content parce qu'on faisait un bon geste. Et en donnant le monsieur, il m'a regardé bêtement, il m'a dit non, je ne prends pas ça. Je ne veux pas de lait, je ne veux pas de jus d'orange, je ne veux pas de sandwich. Je dis, mais vous êtes là, vous demandez quelque chose, donc on a choisi ça pour vous. Il dit, oui, mais je n'ai pas faim, moi. Enfin, j'étais un peu perdue. Et en plus, je n'étais pas toute seule, j'étais avec les enfants. J'étais malheureuse, quoi. Mmh. Je dis, alors comment je peux vous aider? Je retourne au champ, je vais acheter ce que vous voulez, quoi. Il a dit, non, je veux l'argent. Je dis, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas vous donner. Mais vous pouvez prendre quand même les affaires que je vous ai ramenées. Il m'a dit non. J'étais déçue, quoi. J'étais vraiment, mais vraiment déçue. Je commençais à... Les larmes m'étaient tombées et je ne voulais pas que les enfants y voient ça, tu vois. Et avec le temps, je rentrais dans ma chambre. Enfin, on a rentré à la maison, on a fait tout ce qu'on fallait faire. Et le soir, je quand même priais. Je dis, mais Seigneur, franchement, encore une fois, parce que ça m'était déjà arrivé, je dis encore une fois... Et franchement, de l'argent, je ne peux pas le donner. En plus, je pouvais le donner, 2 euros, un truc comme ça. Mais je dis, mais Seigneur, je pensais que lui, il avait faim. Alors du coup, je pensais que c'était bien. Et après, c'est là que le Saint-Esprit m'a réconforté, en fait. Et je voyais que le monsieur, il voulait, en fait, s'acheter de la bière. De la bière à boire. Enfin, et donc, du coup, je me suis... réconforté en disant, ah, pour ça, je ne peux pas l'aider. De toute façon, je ne pouvais pas l'aider. Ouais. Mais pour les enfants, c'était encore plus compliqué pour l'expliquer, quoi, la suite. Mais ça m'était arrivé. Et aujourd'hui, c'est encore plus dur de donner. Donc, je donne peut-être au reste du cœur. Quand tu vas faire tes courses, tu achètes quelque chose et tu donnes. Ou à quelqu'un qui vraiment te sent à cœur, qu'il a besoin, mais l'argent, je ne donne pas, quoi.
Alors c'est un exemple très intéressant, mais qui peut être effectivement douloureux. Dans ces cas-là, je ne sais pas comment je réagirais, mais la personne, peut-être que je lui donnerais un message assez direct aussi, et je lui témoignerais juste de pourquoi j'ai fait ça et de l'amour qui m'anime, l'amour de Jésus pour cette personne qui ne changera pas, même si vous n'acceptez pas la chose. Mais sachez que je l'ai fait pour l'honorer lui. Et peu importe ce que vous allez faire avec l'argent bref, ou peut-être monsieur, vous avez juste besoin de recevoir un encouragement. Ne me placez pas votre cœur sur l'argent, parce que je sens que vous avez vraiment quelque chose. Et après, faut laisser le Saint-Esprit nous diriger. Je crois que c'est pas évident, mais t'es pas la seule qui a témoigné ça. J'en ai entendu. On est confronté, et de plus en plus, il y en a qui comprennent que c'est une technique pour avoir de l'argent. Donc ils vont ceux qui aiment l'argent vont trouver des techniques pour usurper les gens. C'est pas un problème, ces courses, tu les gardes pour toi, tu dis, monsieur, eh ben écoutez, on trinquera à votre santé et soyez bénis. Si vous n'avez pas faim, moi je sais qu'à un moment dans la journée, j'ai un petit creux, ça va juste bien tomber et puis je le prends comme ça. Si la personne en plus elle te remballe, moi ça faut faire très gaffe, parce que du coup, Jésus il était pas douillet non plus avec tout le monde et je crois qu'il se laissait pas faire, mais il avait le discernement, c'est sûr. Mais voilà, sois pas découragé. Il y a ce genre d'exemple, mais pour les enfants, effectivement, pour les avertir aussi, effectivement, attention, quand vous donnez de l'argent, faites attention, ou ne donnez pas forcément tout de suite de l'argent, entraînez-vous plutôt autrement, achetez un sandwich, etc. Et les gens se rendent compte que finalement, ils n'ont pas faim. Et souvent, parfois, c'est les pauvres, c'est les gens qui ne se manifestent pas. c'est des gens qui sont dans leur coin ou chez eux et ils n'ont rien, mais ils ne le disent pas, ils ont trop honte. Ça, c'est les vrais pauvres. À nous de prier et de dire, Seigneur, monte-moi dans n'importe comment la personne que tu veux à qui je ramène un gros sac de course et ça va le bénir. Ou monte-moi, dirige les événements, etc. Et puis, on va grandir comme ça. C'est là où je reviens que peut-être donner au feu rouge, ce n'est pas la bonne solution. Et les gens, ils connaissent les astuces. Mais peut-être que oui, ça va être aussi une façon de s'entraîner à être libéral, la libéralité, vous avez compris. Ok, donc on pourrait en parler vraiment plus longuement, de la compassion, etc. Mais on a vu que être changé de l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre d'être changé à l'extérieur. C'est ce qui va se voir à l'extérieur. Mais par quoi? Justement, par nos actions, et c'est ce qui nous amène au jour 3. Alors, c'est un fait. C'est comme ça, c'est pour tout le monde, personne ne pourra le changer. Lorsqu'on donne quelque chose, on a quelque chose en moins. On est d'accord? C'est logique. Tu donnes un truc, ben tu as moins de trucs. Voilà. Enfin, en principe. Mais avec les principes de Dieu, c'est ça qui est fou, c'est qu'il nous renverse totalement notre imagination, notre pensée là-dessus, notre fondement, principe. C'est que quand tu donnes quelque chose, tu perds rien, mais tu gagnes quelque chose. Ça, c'est Dieu. Dieu, il est complètement contraire. Le système de ce monde ne fonctionne pas de la même façon que le système de Dieu. Mais attention, ça marche sous condition. Et la seule clé pour vivre justement cette réalité de quand tu donnes, bah, tu reçois, c'est de donner le bon montant. On est d'accord? C'est, c'est donner, de discerner le bon moment pour donner. On est d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'était un petit piège. C'est pas le bon montant et c'est pas le bon moment qu'il faut discerner, mais c'est d'avoir la bonne attitude. D'accord? C'était pour vous taquiner un petit peu. Mais oui, la bonne attitude va déclencher la condition qu'on peut recevoir et s'attendre à recevoir en retour. Dans l'économie de Dieu, justement, il y a plus de bienfaits pour le donneur que pour le receveur. Et vous l'avez sans doute compris ou mesuré un peu plus dans le témoignage que je vous donnais, c'est diamétralement opposé au système de ce monde. Vraiment, ça n'a rien à voir. Quelqu'un à qui vous expliqueriez ça, à vos collègues pas chrétiens, il ne pourrait peut-être pas comprendre. Mais non, attends, je donne, mais j'ai moins. Non, avec Dieu, tu as plus. Ah bon? Waouh! Si vous présentez la chose comme ça, peut-être que les gens vont devenir chrétiens par intérêt pour s'enrichir. Donc, ne le faites pas. Acte 20, 35, on l'a déjà dit, je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres et en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez entendu le début du verset? Je vous ai montré en tout, donc c'est Paul qui parle, qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres. En fait, le but de notre travail, c'est de pouvoir venir en aide aux pauvres. Waouh, c'est un principe divin, ok, mais c'est intéressant de creuser et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Voyons donc les avantages qu'il y a pour le donneur. Alors, donateur, c'est ce que j'ai noté en plus. Oui, le donneur de sang, c'est effectivement, c'est le donateur, j'ai écrit donateur en plus, c'était pour voir si vous suiviez. Merci Elisabeth. Proverbe 11, versets 24 à 25, s'il vous plaît. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Ça veut dire qu'on peut épargner, mais pas plus que nécessaire, vous avez entendu. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. On voit ici qu'il y a vraiment une bénédiction matérielle. Quand on donne, on peut s'attendre. Alors oui, dans le temps de Dieu, dans la sagesse que Dieu a envie de nous donnera, etc., est promise une bénédiction matérielle. Il y a quelque chose si on donne généreusement. Prochain verset, c'est Matthieu 6, verset 20. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni ver, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai juste dit tout à l'heure, c'est que le fait qu'on donne, profitons-en parce que oui, on n'a pas, on n'a plus beaucoup de temps. Alors autant y aller, autant amasser des richesses dans le ciel pour le pro- pour Dieu, ce n'est pas du tout un problème d'amasser des richesses dans le ciel, mais par contre, pas sur la terre. Il nous déconseille de le faire. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Ça sert momentanément, mais dans la perspective de l'éternité, ça ne sert à rien. Alors, qui c'est qui a déjà, parmi vous, envoyé 50 euros au ciel ? J'aime bien poser la question comme ça, c'est assez cru, cash, et puis... Ah, ça c'est notre... J'ai pas dit par la fenêtre, hein. J'ai pas dit envoyer 50 euros par la fenêtre. Mais 50 euros, boum, ils sont partis dans le ciel directement, vous les avez plus vus. Micro. Ah, est-ce que vous avez déjà envoyé 50 euros au ciel ? Comment on peut concrètement placer des trésors dans le ciel ? Oui, vas-y.
Par la dîme, en donnant la dîme.
Est-ce que tu es sûr ?
Ben, c'est ce que tu avais dit dans une des précédentes leçons. La dîme et les offrandes. Non, mais
les offrandes,
dîme aussi.
Effectivement. La dîme, on a vu que ça gardait les écluses ouvertes. Ce n'est pas ce qui nous permet d'amasser un trésor dans le ciel. Mais effectivement, c'est très important. Ézéchiel,
en fait, la dîme, ça active le compte, ça ouvre le compte, et l'offrande, ça crédite le compte.
Exactement. Tu vois ? Alors, il fait des études dans la comptabilité et tout ça, et il maîtrise. Hein. Faut lui faire confiance. Mais j'approuve. On a vu que la dîme, effectivement, garde les écluses des cieux ouvertes. Et les offrandes, ça crédite ce compte. Les offrandes seront multipliées sous le regard de Jésus qui, effectivement, n'additionne pas mais multiplie. Ok ? Alors, c'était marrant de voir votre réaction. Moi, j'ai déjà envoyé 50 euros au ciel. Ah, je suis trop content. Mais comment ? Oui, par des dons, par les choses qu'on donne, les choses qui vont d'une main à une autre pour l'amour et par amour pour Jésus. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de limite au ciel. Vous pouvez, sur terre, vous avez des comptes avec des plafonds. Certains comptes sont vraiment plafonnés assez haut, donc il y a de la marge. Mais au ciel, il y a zéro limite. Alors allons-y. Et ces trésors ne seront pas détruits. Dieu vraiment veille dessus. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste quelque chose qui... En fait, arrêtez-vous un instant, un jour, vous voyez, je le dis souvent, mais pensez, mettez-vous dans la perspective de l'éternité. On est tellement peu de temps sur cette terre, mais on sera tellement longtemps au ciel. Donc, c'est comme si vous pensiez à accumuler des richesses pour tellement peu de temps, alors qu'il y a de la durée, il y a de la marge encore tellement suffisante. Après, et pour ne rien avoir, ce serait tellement bête. Et Dieu nous dit comment on peut se faire des richesses pour notre après. Donc, allons-y, pratiquons-le. Et quand plus jeune on capte ces principes, plus d'avantages on aura dans le ciel, si on le fait de la bonne. Donc, c'est pour ça, j'encourage vous, les personnes qui sont d'un âge qui rentrent dans la vie active, etc., des étudiants ou même... j'ai entendu ces retours-là. Prenez, parce que pour votre futur, ça va être tellement bénéfique. Et vous, nos aînés, etc., prenez aussi, parce qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu voit notre attitude de cœur et nous bénit. Amen. Ok. Alors, vas-y, si je peux prendre le micro. Vas-y, Ghislaine.
J'ai déposé une question à propos des offrandes. Je sais qu'on peut prier quand on a déposé les offrandes donc, sur le compte. On peut prier pour que Dieu multiplie. Hein,
oui.
Et nous redonne. Mais alors, si Dieu nous redonne alors qu'on est sur terre, ça veut dire que le compte en haut, au ciel, il est diminué, c'est ça ? Donc, vous ne m'avez rien demandé ? Comme ça, on sera riche.
C'est une bonne question. Le compte dans le ciel, effectivement, et si on demande qu'il soit crédité pour nous sur cette terre, je pense qu'on utilise des ressources qu'on a épargnées dans le ciel pour être bénis ici. Maintenant, je sais que Dieu nous prépare une demeure, une maison, il construit quelque chose. Si tu prends un bout du toit de ta maison qui est dans le ciel et que tu l'envoies sur cette terre, je ne sais pas comment ça peut se passer, vous voyez, si on prend des images. Mais je crois que si tu as fait l'offrande, parce que Dieu sait qu'on a besoin des ressources sur cette terre. Il nous donne même le moyen. C'est lui qui nous a appris comment on peut avoir une bénédiction financière, comment on peut recevoir ici sur cette terre. Je crois qu'il y a un équilibre dans le ciel qui est magnifique. S'il multiplie dans le ciel autant qu'il veut, il peut juste donner la partie qui te convient sur terre et avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ciel. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Imaginez l'ampleur de l'océan, c'est énorme, on ne peut même pas s'imaginer. Et Dieu, pour lui, c'est une goutte d'eau, c'est aucun problème. Les mesures, c'est une limite pour nous, mais pour Dieu, c'est infini. C'est tellement énorme. Ça répond à ta question ? Ok. Luc 12, verset 34, c'est le verset suivant. « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » On la connaît, on connaît cette phrase, ce verset, mais c'est vraiment un verset qui nous montre qu'en fait, une des bénédictions qu'on aura, c'est d'avoir une intimité plus grande avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre bien conscience que chaque don qu'on va faire, si c'est pour lui, on va être irrésistiblement, c'est le mot que j'ai noté, irrésistiblement attiré vers lui. Si chaque don que tu fais dans la rue, tu penses que c'est Jésus, etc., il y a quelque chose qui va se passer dans ta relation avec Jésus. Jésus, déjà, ça va lui faire quelque chose dans le ciel, je crois qu'il va se... Il va être touché, mais en même temps, dans ta vie, il va se passer quelque chose. Tu vas être plus près de Jésus, tu vas commencer à découvrir des choses de Jésus. Là où Jean partageait tout à l'heure sur la reconnaissance, quand il dit « j'ai commencé à être juste plus reconnaissant », je te poussais un peu plus loin parce que je l'ai aussi mis en pratique dans ma vie. Et l'autre jour, j'étais sur le retour dans ma voiture et j'ai juste commencé à être j'étais reconnaissant pour ma journée tous les jours, pour mon travail. Mais à un moment, j'ai eu cette pensée « pourquoi t'es reconnaissant ?» précise un petit peu. Et j'ai dit, Seigneur, ah oui, c'est vrai, au lieu que ce soit juste machinal à certains points sur la route, je dis merci pour ma journée, Seigneur, tout mon cœur. Je disais merci, Seigneur, pour waouh, le repas de midi, c'était vraiment trop bon. Ce moment de fou rire avec mon collègue, c'était vraiment super. Et le travail que tu m'as confié aujourd'hui, j'ai vraiment aimé. Hein, j'ai vraiment... Et vous savez ce qui s'est passé ? J'avais en fond, j'avais un tout petit peu de musique, j'avais de la louange, je commençais. Et là, j'ai senti une poussée de l'esprit. Je pourrais parler en langue dans la voiture. J'ai loué, 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 loué. C'était pas du tout difficile pour moi de donner une louange. C'était pas du tout un sacrifice à ce moment-là. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et là, je priais pour les gens, etc. Et je commençais à parler en langue et tout. Et ça m'a fait tellement du bien. Encore une fois, on voit que la reconnaissance s'est tournée vers nous. C'est Dieu le reçoit. Et quand il l'agrée, je crois qu'il l'envoie. Il l'envoie pour nous et il nous anime. Donc oui, l'intimité avec Jésus, c'est tellement bon. Et c'est bon à n'importe quel moment. Aujourd'hui, un collègue me disait, je faisais de l'évangélisation il y a longtemps, des années à Dijon et tout. Et je leur disais aux gens qui ne croyaient pas que Jésus existait, je dis, si, je lui ai parlé ce matin. Ah bon ? Bah oui, j'avais le droit de dire que j'ai parlé à Jésus. On lui parle, on peut lui parler, pas tout le temps et tout, mais on peut lui parler. Je fais, ah bon, on ne peut pas lui parler tout le temps. Bon, mais c'est ton point de vue. Moi, je suis pas d'accord. On peut lui parler tout le temps. Là où vous êtes, quand vous vous levez, même dans les rêves, c'est possible. Voilà. Tellement envie de voir des chrétiens avoir une intimité plus profonde avec Dieu. Et je parle pour moi et être vraiment attiré à lui et sentir son cœur battre. Ça fait trop du bien et en fait, on est une bénédiction pour les autres. Le dernier verset, c'est 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Vous l'avez dans votre cahier normalement. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Les versets sont très clairs, ils sont transparents. Et notre caractère qui est transformé nous permet aussi d'avoir après un capital, quelque chose de très concret, un trésor bon et solide pour l'avenir, afin qu'on puisse saisir la vie véritable, la vraie vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vois que le temps passe, mais on va avancer assez rapidement. Vous m'excuserez si je ne vous donne pas tout à fait la parole, ou pas souvent. J'ai tellement envie de vous apporter la leçon ce soir, et il est déjà 8h15, mais pas de stress. J'ai une citation que j'ai tirée, que j'ai notée, que j'aime beaucoup, c'est « La libéralité n'est pas le moyen que Dieu utilise pour récolter des fonds. » Il n'utilise pas la libéralité pour récolter des fonds, c'est le moyen qu'il utilise pour rendre les hommes, nous, conformes à l'image de son Fils. C'est au travers de la libéralité, il nous transforme pour qu'on soit de plus en plus ressemblant à qui ? Aux anges. À Jésus. À son Fils, exactement, pas aux anges. Les anges sont merveilleux, ils sont beaux, ils sont puissants, etc. Mais c'est à Jésus. Et c'est incroyable. Dieu a envie qu'on lui ressemble, qu'on ressemble à son Fils. Et ça nous mène au quatrième jour. Ok. Le début de l'étude 4 concerne l'approche de la dîme. Alors, la dîme, comme je l'ai dit au début, on l'a vu aussi déjà dans un chapitre précédent. J'aimerais juste apporter une toute petite précision. Ça a fait naître ce petit partage au moment de certaines discussions avec quelques-uns d'entre vous. Et j'ai trouvé juste qu'il fallait qu'on puisse juste en parler. Le détail que j'aimerais préciser ce soir, c'est quel est le montant précis qu'on devrait ou qui serait juste de donner pour notre dîme. Parce qu'on peut se dire, waouh, je ne sais pas, certaines fois j'ai entendu que c'est sur le net, sur le brut, sur le très net, sur le pas brut et tout. C'est quoi ? Alors, pour moi, perso, j'ai pas encore un avis tout à fait fondé et puis éclairci, et je prie pour ça. Par contre, le livre « Bien, richesse et argent » qui a été écrit par deux auteurs, et notamment Earl Pitt, il en parle dans ce livre-là, et j'aimerais juste vous donner, lui, c'est quoi sa réponse. Pourquoi ? Parce que c'est la dîme, pour moi, à mon sens, il n'y a pas 36 montants qui sont justes devant Dieu, d'accord ? Mais il y a un montant qui est juste. On peut avoir un cœur tout à fait bien disposé, etc. Mais je crois que sur nos récoltes, Dieu attend la vraie part, une part juste. Ok ? Donc, simplement, Earl Pitts, dans son livre, il dit que la dîme devrait être versée sur le salaire brut. Ok ? Mais pour lui, le salaire brut, ça comprend quoi ? Donc, il est américain, quand il fait des conférences en Europe, qu'est-ce qu'il dit pour les Européens ? Parce qu'il sait très bien comment ça se passe chez nous. Il dit que le salaire brut, c'est ce qui comprend la part nette qui revient au salarié, notre net, augmenté de toutes les cotisations, donc la part salariale et la part patronale. Je ne voudrais pas juste qu'on rentre dans des débats et je ne veux pas nous culpabiliser. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais le plus important, à mon sens, justement, c'est que Dieu attend qu'on manifeste une attitude de cœur. Vraiment, j'ai envie de donner, Seigneur, ce qui t'appartient, j'ai envie de te rendre, etc. Le montant qui correspond à la dîme pour mes revenus. Seigneur, montre-moi. Et c'est là où je continue à creuser. J'ai posé des questions, j'attends des réponses. Je pourrais vous les donner avec plus d'explications dans les temps, dans les prochains temps, si c'est possible. Parce que oui, je pense que on peut, et c'est juste si vous avez envie de faire les choses droites, avec droiture devant Dieu, de dire, ben, moi j'aimerais comprendre comment je peux calculer. Et je mets vraiment 10 guillemets autour du mot calculer, parce que oui, Dieu attend d'abord notre cœur. Dieu, ce qui lui fait du bien, c'est oui, il trouve des enfants qui ont envie de l'honorer, qui ont envie, ils se trompent peut-être, bon allez, je vais les orienter, je vais les guider, etc. Et c'est mon cas aussi. Je suis pas encore arrivé, je suis pas encore au top, mais je crois qu'on a besoin, une fois qu'on sait, à ce moment-là, on a le choix, soit on fait pas, soit on fait. Mais que Dieu puisse vous conduire, laissez-le vous guider, et puis il va vous montrer, ok ? Mais j'aimerais aussi vous apporter donc toutes ces réponses dès que je pourrai. Ça, c'était le début, ça vous convient ? C'était le début du quatrième jour, et c'est là où on voyait que Melchizedek et Abraham ont eu un contact, etc. Et c'est là où la dîme, la première fois qu'elle est établie dans la parole de Dieu, elle est décrite. J'aimerais vous... On prend le verset suivant, simplement. Le verset suivant, pour avancer, c'est 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Il est assez long. Nous voulons vous faire connaître, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Soutenir le peuple de Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Il y a trois principes qui sortent de ce passage. Et le premier, c'est que les croyants se sont donnés, ont donné généreusement, au-delà de leurs moyens. Ça dépassait ce qu'ils avaient. Alors, attention, soyez sages, soyez inspirés par Dieu, parce qu'on a entendu des témoignages où les gens ont tout donné, ils ont tout vendu, etc., ils se retrouvaient sur la paille, et ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais là, les croyants, il y a une possibilité de faire ça, une possibilité qui honore Dieu, et finalement, Paul, l'apôtre, qui le souligne, donc c'était quelque chose de bon. Pardon, ça c'était pas le premier principe, mais c'était ce qui les a animés. Le premier principe, c'est qu'ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Dans mes notes, je l'avais noté un petit peu plus bas. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est important de savoir pour qui on le fait. Souvenez-vous, on le fait pour Jésus, on le fait pour Dieu. Ils se sont soumis à la directive du Seigneur. Seigneur, tu as envie que je fasse des dons, des offrandes, que je sois libéral, etc. D'accord. Tout d'abord, je me soumets à ton autorité. La deuxième, c'est effectivement leur soumission au Seigneur, que malgré les conséquences, les circonstances pardon, difficiles, ils ont demandé vraiment avec insistance. Ils n'y sont pas allés genre « Ah, non, les gars, vous n'avez pas trop de moyens, faites pas. » « Si, on veut. » Et ils ont insisté. Ils étaient intentionnels, on va le revoir plus tard. Et ils ont éprouvé une grande joie. Ça, c'est le troisième principe qui en sort, c'est qu'il y a une joie qui en sort. Il y a quelque chose qui leur est donné en retour. Ok, ça c'était le quatrième jour. Normalement, dans votre cahier, vous avez ces points-là. Être soumis, se sont donnés ils ont éprouvé une grande joie. Ça peut être les réponses pour le quatrième jour. C'est ok pour vous ? J'avance. Le cinquième jour, Matthieu 15, versets 4 à 6. Dieu a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous, vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu, il n'a pas besoin de marquer pratiquement son respect pour son père. C'est ainsi que vous annulez l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. On prend tout de suite un autre verset, 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi et il est pire qu'un incroyant. C'est un verset qu'on entend aussi qui est tout à fait vrai. Donc on a des responsabilités envers les membres de notre famille. Premièrement, honorer son père et sa mère. Alors là, on est vraiment dans le... C'est pas genre un petit câlin, etc. Et puis ça, c'est bien. Mais là, on est dans le contexte que c'est les finances, c'est matériellement honorer son père et sa mère. De la même façon que vos parents, nos parents, mes parents, ont pris soin de moi lorsque j'étais plus petit, que je ne pouvais pas pourvoir à mes besoins. Ils ont pris soin de moi et ils l'ont fait matériellement. Ils l'ont fait avec affection, etc. Ça, c'est avec amour, mais ils l'ont fait matériellement. Donc, on doit se poser la question que peut-être nos parents n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ils arrivent dans un temps de retraite, ou bien ils vont peut-être avoir un moment moins d'argent. Et nous, ça roule, ça envoie, on est bénis, etc. Et finalement, on part 5 fois en vacances, et nos parents, ils partent pas du tout en vacances, ça fait 15 ans qu'ils sont pas partis, parce qu'ils peuvent pas se les payer. Mais nous, tous les 6 mois, on part en vacances, etc. Peut-être que vos parents sont dans une maison ou peut-être un petit Audi tout misérable et vous avez un château, etc. J'exagère. C'est simplement pour nous montrer que, attention, dans le cœur de Dieu, les gens qui font pas ça, qui font ça, je veux dire, c'est comme s'ils ont renié leur foi. pire que des incroyants, s'ils ne prennent pas soin des siens, on va le détailler plus loin, c'est important de vraiment prendre conscience que si nos parents ont des besoins, ce n'est pas aux autres de répondre à ces besoins. Premièrement, c'est aux enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ou bien s'il y a peut-être, il y a peut-être des conflits, des choses comme ça, je nuance, mais attention. Pareil que les parents ont besoin de responsabiliser leurs enfants, d'accord ? C'est pas dans le but que les parents soient toujours que les enfants soient toujours à la charge des parents, même à 40, 50, 60 ans, on est d'accord ? Ce verset ne dit pas ça. Les parents ont à amener leurs enfants à être autonomes, etc., à être matures, à être équipés pour avoir leur propre famille, etc., être une bénédiction pour elles. Mais oui, effectivement, si peut-être un enfant qui a 50 ans a des difficultés et que les parents, ça roule encore, je crois qu'ils vont le faire naturellement. Inversement, ça devrait être le cas aussi. Ok. Il y a toute une série de versets que j'aimerais sauter. Vous les avez dans votre cahier, nombre 18, versets 8 à 10, parce qu'on va revenir dessus. Le nombre 18, verset 24, Galates 6, verset 6, par contre, j'aimerais le prendre. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, ça c'est un verset qui tient, ça résonne. Et 1 Timothée 5, verset 17-18, les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire, surtout ceux, tiens c'est marrant, c'est même pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau, bon bref, c'était une petite remarque. Donc, méritent un double salaire, surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare, vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé et l'ouvrier a droit à son salaire. Pourquoi j'ai un petit peu accentué là-dessus, c'est qu'on va, effectivement voir dans le détail vers quoi, vers qui, vers quel type de personne on peut donner. Et dans la parole de Dieu, tout est décrit, tout est précis. Donc à nous de voir comment on se positionne. Ça m'amène vers le jour numéro 6. Donc je passe très vite sur le jour numéro 5. Si vous avez des questions, notez-les. Mais ce qui en ressort, c'est vraiment d'honorer nos parents et de prendre soin des nôtres. Okay ? Et on va voir à la fin quelques détails supplémentaires. Sixième jour commence par le verset Isaïe 58, versets 6 à 11. C'est un long, long verset. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Ça, c'est un jeûne qui plaît à Dieu. Waouh! Ça veut dire quoi? C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim. C'est offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. C'est ne pas te détourner de ton prochain. C'est quelques exemples pratiques. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Et vous connaissez la fin du verset, plein de bénédictions pour ceux qui font ça. Ézéchiel 16, verset 49, c'est le verset suivant. On va voir trois versets. « Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. » Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance. Elles avaient tout ce qu'il fallait et dans une tranquille insouciance. Relax, on profite de tout ce qu'on a. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Tout ça, c'est associé au crime de Sodome pour Dieu. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez dans vos notes, Proverbe 28, verset 27, est-ce que c'était dedans, je ne me souviens plus trop. Mais rajoutez-le, sinon, Proverbe 28, verset 27, Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. On peut intentionnellement se cacher les yeux à la misère, et c'est là où je reviens à la compassion du début. Est-ce que Dieu a le droit de nous parler sur ça et nous interpeller, dire hey, t'es un peu sec, t'es un peu froid, laisse-moi te toucher, laisse-moi allumer une bûche sur ton cœur. Ok ? Je l'ai dit tout à l'heure, prendre soin des pauvres, c'est vraiment le jeûne que Dieu a agréé, que Dieu aime. Ça peut vraiment être un acte d'adoration, de soumission à Dieu, justement, de d'honorer un pauvre dans la rue, un orphelin, etc. Et sont liées à ces actions des promesses merveilleuses de nous rétablir, de le rétablir vite, pas lentement, donc ce n'est pas des années, des années. Dieu va faire quelque chose de puissant dans nos vies, et que ce soit dans notre âme, mais aussi dans notre situation financière, je crois que Dieu ne nous laisse pas, ne met pas ce domaine de côté. Et c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 16 au verset 49, que l'inverse par contre, vivre dans l'insouciance, etc., ne pas prendre en compte l'appel de Dieu à être libéral, à être dans le don, dans le fait de libérer voilà, des richesses pour les autres, bah, c'est un crime à ses yeux et on en paye les conséquences un jour. Est-ce que dans vos cahiers, vous avez la notation Matthieu 25, versets 35 à 45 ? Vous l'avez ? Ok. Comme ce verset est super long, j'aimerais un petit peu écourter et prendre du temps pour autre chose. Vous l'avez lu quand Jésus dit « C'est en faisant ça et ça et ça que finalement vous l'avez fait à moi. Vous avez pris soin de quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait. » Souvenez-vous, je vous l'ai dit au début, voyez Jésus en face, la personne à qui vous bénissez, et ça va nous permettre de... C'est une des clés qui est décrite dans ce verset-là, effectivement, parce que finalement, c'est Jésus qui est honoré lorsqu'on donne à boire à quelqu'un, lorsqu'on donne à manger à quelqu'un, etc. Jésus voit les pauvres, il a un cœur pour les pauvres. Ça, on le sait. Certains même disent que Jésus a vécu pauvrement, chichement, il est né dans des conditions pauvres, etc. Oui, il s'est fait pauvre, mais je crois que c'est d'une condition riche, une condition glorieuse dans laquelle il est venu et il veut nous amener vers ça. Il ne veut pas nous amener à la condition que, par contre, le diable veut nous amener à ne plus rien avoir, être fauché, déprimé, etc. Bien que Jésus, effectivement, n'a pas montré peut-être beaucoup de signes, il en avait des signes extérieurs de richesse, mais ça ne peut pas être un argument quand les gens vous disent « Oui, mais Jésus était pauvre, il faut que les hommes de Dieu qui servent le Seigneur restent pauvres, etc. » Je refuse que ces arguments soient annoncés parce que pour pouvoir soutenir les pauvres, il faut avoir des ressources. Et plus on en a, plus on peut soutenir. Et moi, je le vois comme ça. Et je veux beaucoup de ressources pour pouvoir soutenir. Et on a le droit de prier pour ça. Ok ? Jean 13, verset 27-29. Est-ce que vous l'avez ? C'est juste que je n'ai pas fait le relevé. Jean 13, verset 27-29, je le prends. « Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Ici, dans ce verset, on voit que c'était un réflexe pour les apôtres de dire, bah, Jésus il a peut-être voulu lui dire, va faire ce qu'il faut que tu fasses. Ah tiens, bah, vu qu'on donne régulièrement aux pauvres, vu que ça fait partie de notre vie, vu que c'est dans notre style de vie, etc., il lui a sans doute dit d'aller faire ça. Ou alors, peut-être aussi, comme il va y avoir une fête bientôt, d'acheter des produits pour la fête. L'un ou l'autre. Mais vous voyez que c'était, au travers de ce verset, on voit que c'était un style de vie. Avec les apôtres, Jésus, là où il passait, il faisait du bien, il donnait, il prenait dans la bourse qui était pour leur ministère, et il donnait. Et ils avaient des ressources. Et on peut voir les montants, etc., une autre fois. Galates 2, verset 9 à 10. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, parmi les juifs. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres de leur église, à Jérusalem, ce que j'ai pris grand soin de faire. Donc on a vu que effectivement Jésus et ses apôtres, c'était un style de vie. Et là, Paul, Barnabas, quand ils ont décidé, ok, toi tu t'occupes de ce coin, moi je m'occupe de ce coin, ce qui a été juste, les gars, n'oubliez surtout pas un truc, prenez soin des pauvres, souvenez-vous des pauvres, etc. C'est marrant, ils auraient pu dire quoi que ce soit d'autre. Passez pas par ce chemin, ou j'en sais rien, moi. Non, la seule chose qui comptait à leurs yeux, c'est souvenez-vous des pauvres. Et ils savaient pourquoi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important derrière. Et que Dieu est réjoui. Quand Dieu est réjoui, il se passe des choses glorieuses dans les églises. Quand une église prend soin des pauvres, Dieu ouvre les écluses des cieux, je crois. Le cœur de Dieu est vraiment touché quand on prend soin des pauvres. Pas que des pauvres, on va le voir. Ok. J'aimerais faire justement ce petit résumé parce qu'on a vu plusieurs types de personnes à qui on pourrait donner et j'aimerais vous appuyer ça avec des versets aussi, mais dans notre vie chrétienne, à un moment ou à un autre, quand on grandit, quand on s'épanouit, quand on commence à être des gens fidèles, quand on commence à vraiment recevoir et vivre la surabondance que Dieu a envie pour chacun d'entre nous, on devrait pouvoir arroser tous les types de personnes que je vais citer maintenant. On a vu en 1 Timothée 5, verset 8, qu'il est bon de donner d'abord à qui ? À notre famille. Notre famille, c'est vraiment ma famille. C'est pas papa, maman, ça comprend ça, mais d'abord notre famille, on prend soin de ma femme, de mes enfants, et après de mes parents. 1 Timothée 5, verset 8. La deuxième catégorie de personnes, c'est donner à notre église locale. Nombre 18, verset 21, qui en parle. Donc, pour l'église locale. On l'avait pas lu ensemble, mais vous pouvez noter la référence. Nombre 18, 21. Donner à notre église locale. Le troisième point, c'est donner à nos pasteurs, à nos enseignants, à nos parents spirituels. C'est très, très important. Et je vais ouvrir une parenthèse. Il y a deux versets qui le disent. 1 Timothée 5, 17 et Galates 6, verset 6. Alors, une parenthèse très importante. En commençant, et ça vous pouvez le rajouter aussi, c'est un verset, 1 Corinthiens 9, verset 13-14. 1 Corinthiens 9, verset 13-14 nous dit « Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. » C'est pour ça que je voulais ouvrir la parenthèse. Ça ne veut pas dire que les personnes qui annoncent l'évangile doivent forcément le faire à plein temps. Ça ne veut pas dire ça. On ne peut pas faire dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. Mais par contre, qu'ils doivent recevoir une part leur permettant de vivre, ça c'est ce qui est dit. Donc quoi qu'il en soit, l'Église, elle devrait être une source de bénédiction financière, ou d'une certaine manière, pour que les enseignants, les pasteurs, etc., ceux qui annoncent la bonne nouvelle puissent vivre. À notre époque, on appellerait ça un salaire, ok ? Mais après, c'est leur choix. C'est possible parce que la parole de Dieu nous en parle dans l'exemple de Paul. C'est leur choix de faire une activité annexe. S'ils veulent, ils peuvent. Et pourquoi Paul a choisi ça ? C'est parce qu'il a fait le choix de ne pas être une charge à son église, mais il a dit, ça c'est ma décision. On ne peut pas en faire une loi, on ne peut pas dire, il faut que les pasteurs ne soient pas à la charge de l'église. C'est faux. Et on ne peut pas dire non plus, il faut que les pasteurs soient à temps plein pour l'église. C'est faux aussi. Vous avez compris la chose ? Ce n'est pas un principe de devoir avoir une activité annexe. C'était le choix de Paul. Mais une église devrait pouvoir soutenir. Et il est très important que ceux qui annoncent la parole soient honorés. Dieu, il voit ça. Qui c'est qui a établi ces personnes ? Ça devrait être Dieu, on est d'accord. Parfois, ce n'est pas Dieu, on est d'accord. Parfois, certains pensent qu'au lieu d'être menuisier, ils peuvent être pasteurs, ou etc. Je le dis avec un peu d'humour, mais je l'ai déjà entendu. Bref. Mais Dieu qui a ordonné qu'ils reçoivent, il l'a ordonné. C'est un ordre qui veut que dans l'Église, pour que ça fonctionne bien, pour qu'il y ait quelque chose, c'est spirituel derrière. Quand une église honore ses pasteurs, il y a quelque chose de spirituel qui se passe sur l'église. Et j'ai entendu qu'à certains endroits, on dit, nous, on veut garder notre pasteur dans l'humilité, on va lui donner le minimum. On va le garder dans l'humilité quand même. Faut pas trop s'il vient avec une Mercedes, ça va pas le faire. Enfin, ça, c'est des choses qui se disent. Bien sûr, il faut mesurer les choses. Il y a dans les églises des CA, il y a des choses qu'on peut faire. Mathieu pourra d'ailleurs vous en parler parce que c'est quelque chose qui est bon et il y a des décisions qui peuvent être prises. Mais quand on honore un pasteur, et ça c'est Charles Finney. Est-ce que vous connaissez Charles Finney? Charles Finney, c'est un homme de réveil des années 1800, je crois, il y a longtemps. Mais c'était un pasteur de réveil. Et il a dit, les églises qui n'honorent pas leurs pasteurs ne vivent pas de réveil. Et parfois, il était comme ça dans des églises et il disait, on lui disait, ouais, on voit rien se passer, etc. Il dit, ah, fais voir une fois. Est-ce que tu reçois un salaire dans... Non ? Ah ben, change rien que ça, changez déjà ça, bien sûr, avec l'attitude de cœur qui va très bien avec, etc. Que ce soit d'un commun accord. Et ils ont vécu des réveils. Peut-être que ce n'est pas la seule clé, mais ça en était une très importante. L'honneur pour Dieu, c'est quelque chose j'ai pas le mot, mais je crois que c'est parce que j'ai envie de dire, hein, c'est primordial, c'est même pas suffisant pour moi. C'est l'honneur pour Dieu, c'est waouh, c'est sincère, c'est ça que tu dis, essentiel, ouais, essentiel. Ok, donc ça c'était la parenthèse que je voulais juste donner sur. Le fait d'honorer, de donner aux pasteurs. C'était le troisième point, à qui on peut donner, aux pasteurs, aux enseignants, etc. Et à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les derniers groupes suivants, on ne les a pas vus dans le détail, alors j'aimerais justement vous donner des précisions maintenant. C'est là où je disais, on va le voir à la fin, pendant le cours, on va voir ça. Le quatrième point, c'est donner aux pauvres. Ah bon, on ne l'a pas vu pendant le cours ? Si, mais c'est qui les pauvres ? Dans la parole de Dieu, il disait « Donnez aux opprimés et aux captifs ». Psaume 146, verset 7, c'est ce qui appuie ce point-là. « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. » Des exemples d'hommes et de femmes captifs, ça peut être des femmes battues, des enfants abandonnés, des chrétiens persécutés, voilà, il y a des catégories de personnes, mais Dieu fait vraiment cas de ces personnes-là, les opprimés ou les captifs. Et vous avez entendu dans un des versets que je disais, que je citais précédemment, que Dieu veut qu'on enlève le joug sur certaines personnes. Et qu'est-ce qui va faire qu'on enlève le joug ? Parfois c'est, wow, viens, je vais te sortir de ta misère maintenant, moi j'ai suffisamment de ressources, je sais combien j'ai besoin pour avoir assez, et j'arrose maintenant, viens. Et puis, on y va. C'est OK pour vous ? Le cinquième point, c'est donner aux veuves et aux orphelins. Jacques 1, verset 27. La religion pure est sans tache devant Dieu. Notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques 1, verset 27. Et aider, ça veut aussi vraiment dire financièrement. Ça passe par donner de l'argent, c'est pas la seule façon, mais on devrait y arriver un jour aussi à soutenir des veuves, des orphelins et à se préoccuper d'eux en priorité. Le sixième point, c'est donner à nos frères et frères et sœurs en Christ en priorité. Et quand je veux dire, quand je dis en priorité par là, c'est que la parole, elle nous encourage à soutenir celles et ceux qui ont Christ comme Seigneur, avant de soutenir ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur. C'est bien de faire les deux, il n'y a aucun problème. Mais là, en Galates 6, verset 10, c'est ce qui appuie ce point-là. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la foi. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on a une mesure de temps qui n'est devant nous, on ne sait pas combien, mais elle est réduite, il n'y en a pas beaucoup. Pendant qu'on en a l'occasion, allons-y, faisons du bien, mais d'abord pensons à nos frères dans la foi. Et le septième point, c'est donner aux différents ministères. Donc il y a les pasteurs, il y a les enseignants, etc., il y a tous ceux qui apportent la parole de Dieu, oui, mais il y a les différents ministères. Tite 3, verset 13, je ne vais pas les lire tous les trois que je vous suggère. 3 Jean 1, verset 5 à 7, 3 Jean 1, verset 5 à 7, et Philippiens 2, verset 25. Okay. Là, on a vu sept catégories de personnes. Philippiens 2, 25. 2, 25. Vous pouvez creuser. Allez, vas-y. Une question.
Cet ordre, c'est toi qui l'as défini ou il vient d'où?
J'ai rien défini. Mais d'après les enseignements sur lesquels je me suis basé, il n'y a pas vraiment de priorité légaliste ou avec un principe derrière, mais c'est ce qui nous montre en fait les sept catégories de personnes à qui on pourrait donner. Par contre, j'ai mis exprès la famille en premier parce que oui, certains versets nous ont bien montré tout à l'heure que les pharisiens, ils disaient « Papa, maman, désolé, l'argent qui devait vous revenir, je l'ai donné pour l'Église. » Et certainement qu'ils ne l'ont pas donné pour l'Église.
Je disais surtout ça par rapport au sixième point que tu as donné.
Qui est
les frères et sœurs en Christ.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas, moi je l'aurais mis un peu plus haut. Mais c'est tout.
Ok. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Les veuves, les orphelins ne sont pas forcément des personnes chrétiennes. Ben, la parole nous dit d'abord les frères dans la foi. Ok. Pas de problème. Après, c'est ce que Dieu met sur votre cœur. Mais je pense que c'est important qu'un jour dans notre vie, on puisse arroser toutes ces catégories de personnes. Et sinon, elles ne seraient pas décrites dans la parole de Dieu. Alors, famille, église locale, pasteur, enseignant, donc ceux qui ont nos parents spirituels, donner aux pauvres, donner aux veuves, aux orphelins, donner aux frères et sœurs en Christ et donner aux différents ministères. Ok, ça c'était pour clôturer un petit peu les six jours de préparation. Et là j'aimerais, on a un tout petit peu de temps encore, vous amener un peu plus de contenu, vous amener un peu plus loin. Alors pour bien comprendre et... là où la parole de Dieu nous en parle en Romains 12, verset 8, vous avez déjà entendu parler du don de la libéralité. Certains ils disent « c'est pas mon don » ou bien « c'est le don de lui », je le laisse faire, c'est son don. Moi, mon don, c'est la sagesse. Voilà, j'aime bien faire un peu d'humour comme ça. Mais c'est ce qu'on entend. Et j'aimerais vraiment apporter de la clarté là-dessus parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Là, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Et c'est parti. Donc, il faut comprendre une chose, et c'est pour être vraiment clair. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est valable pour chacun d'entre nous. Donner dans toutes les catégories de personnes, donner aux pauvres, etc. C'est valable pour chacun d'entre nous. Sinon, notre compte de trésor dans le ciel, il va en pâtir. Donc Dieu nous a donné cette clé-là pour créditer notre compte. C'est valable. On est tous appelés à pratiquer la libéralité. Par contre, parmi tous les chrétiens sur cette terre, il y en a qui ont reçu un don spécial de libéralité. Parmi tous les chrétiens, il y en a qui ont une capacité vraiment poussée. Il y a vraiment, sur certaines vies, Dieu a choisi, comme il donnerait la prophétie à l'un, comme le don des miracles à l'autre, etc. Il a choisi de donner la libéralité. Il y a des gens pour qui ça va être tellement facile de le faire, et par contre, s'ils le manifestent pas, ils se sentent pas bien avec Dieu parce que c'est un don qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, etc. Vous avez compris? C'est un don, c'est une capacité, oui, la libéralité, mais c'est pour tout le monde. Certains le vivent comme un don ponctuel sur la vie de l'un ou l'autre croyant, etc. Mais ça ne nous exclut pas de pratiquer la libéralité. Je me suis bien fait comprendre, d'accord? Certains l'ont plus fortement que d'autres, c'est juste ça. Voilà. Mais on devrait tous, en tant que chrétiens, pratiquer la libéralité. Et on peut justement contredire des arguments en disant, voilà, non, lui il a le don de la libéralité, bah, bénis-le encore et puis, ouah, c'est génial, inspire-toi plutôt de cette personne pour toi aussi pratiquer la libéralité. Ok? Par contre, la parole de Dieu nous dit, donc vous lirez Romains 12, 8, nous dit que ceux qui ont le don de la libéralité doivent donner avec une entière générosité, sans arrière-pensée, avec sincérité et simplicité. Il vient peaufiner le don là, il leur dit, ceux qui ont ça, par contre, c'est comme ça que ça doit se passer, entière générosité. Bah, voilà, ça c'est comment vous pouvez développer votre don. C'est Romains 12, 8. Et s'il y a une personne qui justement vient vers vous et qui dit non, mais c'est peut-être le don. Peut-être pour lui, il a un problème avec l'argent. Il y a peut-être un problème de cœur où elle associe beaucoup trop d'importance à l'argent. Et elle se dit, pourquoi c'est dur de donner? Dis-moi, pourquoi? C'est quoi ton problème, etc. Et on va régler ça plutôt parce que Dieu veut que tu donnes et ça va être une bénédiction pour toi. Donc on peut amener les gens à être libérés du joug, libérés de tout esclavage. Souvenez-vous, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait de savoir recevoir. Là, on était beaucoup dans le fait de donner. La libéralité, ça va vers les autres. Mais il y a des gens qui ne savent pas recevoir un don, un cadeau et un soutien. J'ai trouvé intéressant d'en parler ce soir. Juste boire un coup. Si vous avez été comme moi, un jour vous avez dit « Oh non, fallait pas !» Non, fallait pas, oh là là. Ou bien non, mais garde ton argent, j'en ai pas besoin. Garde-le. Ou t'es vraiment sûr que tu veux me donner ça, etc. Moi, c'est des choses que j'ai dites. Et franchement, enfin, c'est clair, c'était de la fausse humilité. Souvent, on se dit, ah, c'est quand même trop bien. Et fausse humilité, c'est de l'orgueil. Et lorsqu'on refuse un don, et là, j'ai écrit dans mes notes, attention, quand on refuse un don fait dans l'amour, fait avec le bon cœur, que Dieu agrée, etc., pas un pot de vin. Parce que les pots de vin, on l'a vu, l'honnêteté, ça en prend un coup. Donc, pas les pots de vin, ok? Quand on refuse un don fait avec amour, on empêche la personne d'être bénie. C'est ça qu'on fait. Pourquoi? On l'a vu toute cette leçon. Quand on donne, on est béni. On empêche la personne d'être. Si une personne qui veut nous bénir financièrement, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a mesuré l'acte ou la décision qu'elle a prise? Moi, perso, quand je donne de l'argent, j'ai déjà, j'ai réfléchi. Quand c'est vraiment une enveloppe considérable où je peux dire, ah tiens, je veux vraiment te bénir, te soutenir, j'ai réfléchi. Donc, t'as pas besoin encore de me demander si j'ai réfléchi ou si c'était la bonne chose ou si c'est ça. Non, j'ai prié pour, j'ai fait la démarche qui était bonne de faire. Prends maintenant, sois béni et moi aussi je serai béni. Parfois c'est un peu même de l'égoïsme, on peut dire, tu la prends ou sinon je vais pas être béni. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, on empêche les personnes d'être bénies. Et j'ai appris ça Je dis, ah oui, bah, je reçois ton cadeau. Et par contre, allez à ce moment-là, vous prenez le cadeau et allez dans le secret de votre chambre et vous dites, Seigneur, je te bénis d'avoir pourvu d'une manière qui m'était totalement insoupçonnée. Et ce n'était pas mon ressort de gérer la manière dont tu vas me bénir, mais tu m'as béni, alors gloire à toi. Et c'est ça qui est important. Alors là, on touche bientôt à la fin. Et un deuxième mot que j'aimerais vous laisser ce soir, après le premier. Vous vous souvenez le premier mot que je vous avais donné? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Libéralité, ok. Ah ouais, c'est le mot exactement, prendre dans les tripes, la compassion, le mot compassion. Alors Mathieu essaie de le décrire en hébreu et tout, mais ça vient, ça commence, tu fais des progrès. Le deuxième mot que j'aimerais vous laisser ce soir, et j'en ai un petit peu parlé, c'est le mot intentionnel. J'aime bien ce mot. Et quand on pense à générosité, moi je vous encourage à l'associer au mot intentionnel. Générosité intentionnelle, ok ? En d'autres termes, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne des décisions de pratiquer la générosité, la libéralité, au lieu de subir ou de réagir. Souvent, on est là, ah, on veut que je donne, ah oui, ok, ben, je vais donner, etc. Et finalement, on subit, on est frustré, ça ne nous fait pas vraiment plaisir. Pourtant, Dieu veut qu'on pratique la libéralité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, soyons intentionnels. Deux cas. Le cas numéro un, le don planifié. On planifie nos dons. On a vu l'autre fois qu'on fait des budgets, etc. Dans notre budget, on peut décider tous les mois de mettre de côté pour une somme de côté pour différents programmes, des œuvres, des actions, ou bien l'église, des moments, des offrandes. Souvent, je dis au moment des offrandes, si vous n'avez pas prévu votre offrande à la maison, si vous n'avez pas prié pour cette offrande, si c'est juste là de chercher de la monnaie dans votre poche, non, donnez même pas. Attendez, ça ne va pas être une bénédiction pour vous. Attendez la fois prochaine, prenez du temps la semaine, etc. Et je fais intentionnellement de la pub pour le sel, par exemple, parce que c'est un organisme qu'on soutient avec Mathilde. Et c'est une organisation qui prend soin des enfants, des familles pauvres dans le monde, etc. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est un moyen de bénir, de toucher les autres qui sont justement dans le besoin, qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens. Et si vous avez envie de parrainer un ou plusieurs enfants, venez me voir. J'ai tellement plaisir à présenter ça aux gens parce que c'est facile. Il faut juste prendre la décision et on peut varier les montants, etc. Mais avec Mathilde, tous les mois, on met ça à part. C'est un don planifié. Ok ? Choisissez d'investir dans ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est l'humanité, c'est les êtres humains, c'est le top niveau pour Dieu. Dieu, c'est ce qu'il a créé. Il n'y a pas que ça. On peut soutenir plein de choses. On peut soutenir des programmes, des œuvres chrétiennes, etc., qui n'ont pas de relation avec l'humanité, etc. Mais je vous encourage, soyez intentionnels. N'attendez pas Noël pour recevoir dans votre boîte aux lettres plein de prospectus. J'en reçois plein. Parfois, ça me culpabilise et tout. Je me dis, j'aimerais tous les soutenir. Je ne peux pas. Bon, bref. C'est des demandes de soutien qui sont cool. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Parfois ça booste un peu les gens et tout, mais décidez avant ça, décidez toute l'année, vous allez décider là où vous voulez être une bénédiction. Je le redis, pour le moment des offrandes à l'église, on va pas chercher dans notre porte-monnaie les 10 pièces rouges qui nous restent de la semaine, et si on n'a pas prévu de le faire, ne le faites pas, ne le faisons pas par bonne conscience ou par peu importe le motif, etc. Ok. Le cas numéro 2, ça c'est le cas numéro 1, okay, le don spontané. Le cas numéro 2, c'est le don spontané. Planifié, excusez-moi. Ok, ça va, tout le monde ne dort pas. Qui c'est qui dort? Je plaisante. Le don spontané, c'est le cas numéro 2. Et on a tous vécu la situation qu'au feu, il y a quelqu'un qui nous demande de l'argent, ou dans la rue, vous rencontrez une ONG qui vient et qui veut faire des récoltes de fonds, etc., et qui nous demande un soutien. Alors, je le dis pour moi aussi, très clairement, quand on prépare des messages comme ça, on doit se parler. Soyons prêts. Ah, donc ça devient un don planifié. Soyons prêts. Avec Mathilde, on a décidé, un exemple, de faire une petite réserve de gâteaux dans notre voiture, dans la boîte à gants. On s'est dit tout le temps qu'on y a quelqu'un qui nous toque à la vitre, on n'a jamais rien, on galère, oh, le feu est pas sauvé. Désolé mon gars. Et puis on y va. Qui c'est qui n'a pas vécu ça? Ah là là. Ok. Et heureusement, peut-être c'était pas le bon moment de lui donner, etc. Mais on s'est dit, Seigneur, on va commencer à être intentionnel et on a acheté une boîte de gâteaux réservée pour les dons. C'est pas quand on a une petite fringale et tout. Si je le dis ce soir, je suis sûr que cette semaine je vais être testé sur ça. J'ouvre la boîte à gants. Wow. Non, j'ai des gâteaux. Mettez pas du chocolat en été, quoi. Des gâteaux au chocolat. Tenez. Enfin, bon, c'est ce qu'il en reste, mais je vous aime. Soyez bénis. Non, on a pris des gâteaux qui résistent, etc. Mais on était intentionnel. Et un deuxième exemple, c'est qu'avec Mathilde, on est en train de mettre ça en place dans notre famille, dans notre foyer. C'est ce que j'appelle une petite bourse. Ah, vous voyez, accroché à la ceinture, une petite bourse avec une certaine somme d'argent liquide que dans notre budget, on a décidé de réserver pour les dons. On va à la banque, on prend 20 euros, 10 euros, 5 euros, on fait des pièces jaunes, enfin des 50 centimes avec, comme ça on en a tout plein, comme ça on peut donner plusieurs. Et on a ça sur nous. Et au cas où, Seigneur, maintenant tu nous montres, regarde, c'est 10 euros que je peux. Un jour je pourrais peut-être 2000 euros dans ma bourse. Il faudra un sac à dos rempli d'argent. Mais aujourd'hui je commence avec 10 euros. Pas besoin d'être. On peut commencer très petit. Dieu voit notre intention. Et dès qu'il y a un besoin, Seigneur, là je peux lui donner combien? Oh, j'ai trop à cœur de lui donner deux fois 50 centimes. Tenez, monsieur, et tout. Et soyez bénis. Et on est prêt, on est disposé, on est disponible pour que Dieu nous utilise. Et on a un deuxième compte. J'en ai déjà parlé au moment des budgets. On a un compte qu'on a appelé Tire-Lire avec Mathilde. C'est simplement qu'on épargne de l'argent pour l'un et pour l'autre, qu'on peut faire ce qu'on veut sans nous rendre mutuellement des comptes. Tout le reste, on se rend mutuellement des comptes. Là, on a décidé, comme ça, ça nous permet d'être vraiment libres l'un et l'autre pour pouvoir dépenser comme on veut. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et j'aimerais vous raconter un témoignage. C'est que l'autre fois, j'étais dans la rue. J'allais à un rendez-vous dans Strasbourg, mais j'avais du temps. Je tournais dans la rue et tout ça. Et je priais au fond de moi. J'aime bien regarder les gens comme ça. Et je disais, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Montre-moi maintenant une personne et tout. Et je fais un long tour. Rien, aucune occasion qui se présente et tout. Je dis ok, ben je vais à mon rendez-vous. Et là, sur le chemin, 5 minutes avant mon rendez-vous, il y a un mec qui vient vers moi. Ah, salut, t'aurais pas un truc à manger et tout. Non, t'aurais pas de l'argent. Ou il me dit, t'aurais pas une petite pièce pour m'aider et tout ça. Je fais écoute, j'ai pas une petite pièce, mais t'aurais pas faim, qu'est-ce que tu voudrais? Il m'a dit, ouah, c'est sympa. Ce que tu veux, sauf des fruits de mer, ou je sais plus ce qu'il m'a dit et tout. Ou un truc à base de ça, parce que je suis allergique et tout. Je fais, tu m'attends là, je reviens. Puis je suis allé plus loin, j'ai cherché un truc, j'ai dit mettez-moi ça, un truc que moi j'aurais aimé, un truc que moi ça m'aurait fait plaisir. Je lui ai mis dedans, je fais oh purée là il va ça va lui faire plaisir. Et je lui ai ramené ça et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit tu sais ça me fait tellement plaisir de pouvoir te donner ça parce que j'ai fait mon tour dans la rue là et je vais juste te parler d'un truc, c'est que je priais mon Dieu, je priais Jésus qui me guide vers une personne qui avait besoin d'aide et juste qui avait besoin de recevoir un mot, un encouragement, un truc comme ça. Il dit, ah ben ouais, moi aussi je crois en Jésus, tout ça. Je suis de la DAS, mes parents m'ont abandonné, tout ça. Ouais, c'est cool, moi aussi je crois en Dieu, tout ça. C'était un squatter. Je dis, non, mais vraiment, je voulais vraiment t'encourager, ça me touche et tout. Mais sois béni et ça lui en fait du bien, en fait. Il m'a serré la main, il s'appelle Greg et tout. Et dans la rue, si je le recroise, voilà. Mais j'étais intentionnel. Et ça m'a servi, donc ce petit compte, à prendre sur ma tirelire et me dire, ok, je peux faire ça. Soyons donc intentionnels, je le répète, Dieu va se servir de nous pour toucher les autres avec de l'argent. Et c'est ça que j'aime tellement. Quand on commence à parler du sujet, souvent les gens ils se braquent parce que oh, c'est un domaine. Mais non, l'argent c'est un instrument, on l'a vu, c'est notre esclave. Utilisons-le pour faire du bien et pour toucher les autres pour le Seigneur. Et on touche vraiment au bout et c'est ce qui me réjouissait d'apporter aujourd'hui, de vous apporter ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne acte 10, versets 1 à 8. Notez dans vos notes, notez dans vos cahiers, acte 8, 10, 1 à 8. Acte 10, versets 1 à 8. En fait, c'est un passage que j'ai étudié dans un de mes temps de prière et que je crois que c'est juste énorme ce qui en ressort. J'étais là à mon bureau. Et puis j'ai commencé à creuser ce passage. parce que j'en avais besoin. Ok, vous êtes encore avec moi, on n'a plus pour longtemps, et, mais je crois que c'est trop bon. Je vais le lire en entier. Enfin, je vais lire ce passage. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, vous connaissez l'histoire, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. C'est pas parce qu'il était italien que ça m'a plus touché, petite parenthèse. Cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier de surcuir nommé Simon aussi, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était aussi un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis il les envoya à Jaffa. Wow, vous avez pris des choses peut-être, mais ce soir, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que nous parle cette histoire. On nous parle d'un homme, son nom c'est Corneille, et premièrement, c'était un capitaine romain. Et qui dit capitaine romain, c'est un gars qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui doit gérer des choses, une personne d'un haut rang chez les Romains. Mais moi, ce qui me paraît, c'était peut-être un mec qui était surbooké. Qui dit responsabilité dit peut-être être surbooké. Mais pourtant, la parole dit qu'il priait régulièrement. Donc, il prenait du temps dans son agenda pour prier. Très, très important. C'est un homme pieux, nous dit la parole. Et dans la traduction, ça veut dire un homme fidèle. En plus, il allait à l'église avec toute sa famille. C'est un homme pieux. Il aimait ça. Il allait à l'église. Il prenait du temps pour ça. Voilà. Est-ce que vous vous identifiez par rapport à ça? Mais par-dessus tout, il aide les pauvres régulièrement. De la même manière dont il prie régulièrement, il aide les pauvres régulièrement, il donne une aide généreuse. Et dans un temps de prière, un ange se révèle à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une stratégie très précise. Et à ce moment-là, quand moi j'étudiais ce passage de la Bible, moi je dis « Seigneur, j'ai besoin de stratégie, monte-moi dans le business, dans les choses, envoie-moi un ange aussi, etc. » J'avais vraiment cette attitude, je l'ai encore. Et Dieu m'a montré les clés pour avoir une stratégie. Et ça va amener un miracle sans précédent dans la vie de Corneille. Mais qu'est-ce qui fait l'ange d'abord? C'est là où j'aimerais qu'on voit la chose. Ça me fait bouillonner de le dire parce que, en fait, l'ange, il fait quoi? Il associe l'importance de la prière à l'importance de soutenir les pauvres. Il met un lien, il met une chaîne, il met quelque chose pour lier ces deux actions. Et il dit que ce sont deux points qui ont touché le cœur de Dieu. Du coup, Dieu n'a pas oublié Corneille. Il a vu tes prières. Mais il a vu aussi que tu prenais soin des pauvres. Il aurait pu dire, il a vu que tu prenais soin de tes gars. Tu gères bien l'armée. Là, c'est, t'es autoritaire, t'es droit, t'es juste, t'es honnête, t'es fidèle. Non, non, tu donnes soin aux pauvres. Et j'ai trop aimé ça. Prière, prendre soin des pauvres. Et par conséquent, Dieu, mais au travers de l'ange, il lui donne une stratégie. Vous voulez des stratégies? Prier. Et manifester de l'aide aux pauvres. Il lui a donné quoi? C'est là où on va un petit peu creuser. Il lui a donné un timing. C'était une stratégie, mais dans tous les détails. Si on veut une stratégie précise, on a les clés. Un timing, maintenant donc, envoie. Il lui a dit, fais-le maintenant, pas dans un an, pas l'année prochaine. Il lui a donné des collaborateurs. Envoie des hommes. Fais-le avec des hommes qui sont sous ton autorité. La troisième chose qu'il lui donne, c'est un lieu précis. Plus précis que ça, tu peux pas. Va à Jaffa, chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, okay, qui habite au bord de la mer. Donc déjà, vous ratissez ce coin-là et pas un autre. C'est très précis. On gagne du temps. Et qu'est-ce qui donne en quatrième? Il donne un objectif. Parce que faire tout ça, pourquoi? Mais pour un objectif très, très précis. Parce que Dieu avait l'intention de bénir Corneille. Pas seulement Corneille. Un objectif pour en faire venir un homme surnommé Simon. C'est une mission toute facile. Tu vas là-bas, ou même non, c'est même pas toi, c'est tes gars qui vont, et tu ramènes un gars, on va voir. Et Corneille se dit, waouh, ok. Qu'est-ce qui a fait que la promesse de Dieu, qu'est-ce qui a fait que ce qui était vrai, ou si ce rêve, ou si c'était un rêve, est-ce que c'était une vision, une fausse vision? Corneille a obéi. Et c'est comme ça qu'il a vu que c'était vrai. Il a obéi, c'est une des clés qui est très importante. Il a obéi à la voix de Dieu dans ce rêve-là, dans ce travers de l'ange. Et Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve chez lui 3 jours après. Mais pas tout seul. Corneille, il ramène toute sa famille. Il ramène des amis intimes. Et bah, je pense qu'il y avait des soldats qui étaient là, les gars qui ont ramené Pierre aussi. À la fin du chapitre 10, on voit que le Saint-Esprit, et c'est là, quelle était l'intention de Dieu? C'était quoi la bénédiction vraiment? Oh, j'ai Simon dans ma maison, trop cool. Non. En plus, vous allez voir dans le passage que Pierre, il reçoit à ce moment-là une visitation de Dieu. Il est sur la terrasse, vous connaissez le passage, etc. Dieu lui parle, il bouleverse sa façon de penser. Mais là aussi, dans la maison de Corneille, il bouleverse sa façon de penser. Pourquoi? Le Saint-Esprit est donné à tous. Et pour Pierre, c'était non, que les Juifs. Et c'est un bouleversement, c'est un renversement dans la pensée juive à ce moment-là. C'est que le Saint-Esprit descend sur la famille, les amis intimes, tous ceux qui sont autour de Corneille. Vous imaginez la chose? Je finirai avec ça ce soir, les amis. Je crois que vraiment, Dieu va faire des choses incroyables dans nos vies. Mais vraiment, vraiment incroyables. Si on prie régulièrement, ça c'est certes une chose qu'on ne devrait pas négliger. Pas occasionnellement, régulièrement. Mais aussi si nous mettons intentionnellement en action pour bénir les pauvres. On l'a vu. Et oui, il y aura un retour financier, ça j'en suis sûr. Il nous donne les moyens de faire. Mais plus encore, Dieu va faire des choses merveilleuses pour nos familles, pour nos amis intimes, pour ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui... Encore plus large, il va le faire. Est-ce que ça parle sur vos cœurs? Est-ce que ça... C'est vraiment un des derniers points où je me suis dit, waouh, cette histoire avec Corneille, il y a une clé fondamentale par rapport au cœur pour les pauvres. Mais pourquoi? Et Dieu va faire des choses dans nos vies. Ce ne sera pas forcément le Saint-Esprit, ce sera plein d'autres choses. Mais Dieu va le faire. Je vous laisse avec ça pour ce soir. Et si vous voulez, on va prier. On va prier. Et... Est-ce que vous avez des questions juste avant ça? Vas-y, Ézéchiel.
Ouais, moi, c'était par rapport à l'argent que tu mettais de côté pour les pauvres. Du coup, ce qu'on comprend mieux, c'est qu'on prenne dans ton budget. Et en fait, j'aimerais savoir si, on va dire, pour ceux qui débutent dans la vie active, qui commencent à percevoir un revenu, vu que pour eux, c'est un temps de croissance, on va dire, dans les finances, est-ce que c'est possible de se permettre une période où on ne conçoit pas ce compte-là, en attendant de grandir plus?
Oui, carrément. Avec Mathilde, ça fait des mois, des années qu'on tient un budget. Je te dis, on n'est même pas encore, je le disais, on met en place cette solution-là parce qu'on a compris qu'on veut être intentionnel. C'est souvent dans notre portefeuille, on n'a pas les sous au moment où on veut bénir, alors que là, tu dis, ah, ma bourse pour ce mois-ci, elle est tant et tant, tu sais exactement combien il y a dedans. Je dis une bourse, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Le but, c'est d'être vraiment intentionnel. Et une personne qui commence, qui n'a pas beaucoup de revenus, quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois, s'il met 2 euros de côté, ce ne sera pas beaucoup. Peut-être il peut faire mieux que ça. Mais quelqu'un qui gagne 100 euros par mois, et avec ça, il doit gérer plein de choses. Peut-être un étudiant qui reçoit 100 euros d'argent de poche. Si tu mets 2 euros, ce sera déjà... C'est pas mal. 5 euros, 2 euros, 1 euro, c'est déjà une première chose, une première goutte d'eau que tu envoies pour arroser. Et au bout d'un moment, le principe, tu l'auras compris et tu auras envie de grandir sur ça. Tu vas voir les gens qui vont être tellement heureux, tu vas avoir le bénéfice, etc. Et ça va grandir. Donc, moi, je pense que Dieu nous touche, nous parle, nous donne les feux verts pour dire, OK, mets ça en place, essaye, etc. Il te dérangera. Si on le laisse nous déranger, si on dit au Saint-Esprit tous les jours, Seigneur, montre-moi, il va le faire. Donc, pas de problème, pas de culpabilité si tous ces principes-là, on les met pas, dès qu'on devient chrétien, on les met en place. Non, on est dans une marche avec Dieu, on avance, on grandit. Parfois, il nous corrige, parfois, il nous affermit. Voilà. Et parfois, il vous donnera peut-être une meilleure idée que la mienne. Et ça, c'est partager là, donner l'opportunité aux autres aussi d'en bénéficier. Quelqu'un d'autre a une question? Vous êtes noté quelque chose peut-être? Alors, je vais prier, super. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. J'étais après le timing, mais j'étais tellement impatient de pouvoir apporter ce que tu as mis sur mon cœur cette semaine, Père. Et viens encore nous parler, viens faire remonter des choses. C'était très dense ce soir. Et viens nous faire, au fur et à mesure de notre cheminement avec toi, viens faire remonter ces choses dans notre cœur, dans notre esprit. Et viens nous parler, viens donner des révélations à chacun, ceux qui sont là ce soir, mais aussi ceux qui vont entendre l'enregistrement, Seigneur. Bénis-les, bénis toutes ces personnes qui ont envie de voir la libéralité être une chose aisée, une chose facile à faire, une chose qu'ils pratiquent, une chose dont ils ont expérience pour pouvoir en parler, pour pouvoir encourager d'autres à le faire. Soyons, Seigneur, ces chrétiens que tu as envie de voir cheminer sur cette terre, pas centrés sur nous-mêmes, mais pour les autres. Et c'est parfois un combat, c'est une lutte, c'est parfois pas évident. Et aide-nous, Seigneur, viens réconforter là où il y a besoin, viens libérer là où il y a besoin, et viens nous donner ta paix par l'Esprit qui est de vérité et qui est vie. Merci, Seigneur, encore pour l'enseignement de ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et merci pour toutes choses encore dans cette formation, Seigneur. Ne nous lâche pas, emmène-nous plus loin encore. On est à la 7e leçon et bénis-nous encore avec abondance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, juste pour finir, je vous remercie déjà pour votre attention. Merci d'être venu, d'avoir pris du temps. Prenez, ça enregistre encore? Ok, super. Prenez du temps, effectivement, c'est un investissement, mais le résultat va permettre que vous soyez transformés. C'est en étant confronté à la parole de Dieu qu'on va être transformé. Mercredi 20 décembre, c'est notre prochaine réunion. Ne venez pas me voir. Hey, Luc, c'est quand la prochaine réunion? Je l'ai dit, mercredi 20 décembre. Vous avez un mail, vous avez un SMS, vous avez... je plaisante. Mercredi 20 décembre et on parlera du travail. Ça va être trop bon. Il y a des clés, il y a des principes. Sur le travail, c'est pas que la santé. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Bon week-end et soyez bénis.